Il y a des gens qui ont mis le réveil à 7h. On ne peut pas commencer 30 secondes en avance, Armel.
On peut peut-être meubler pendant 20 secondes.
Oui, mais c'est une expression. On croit, les gens pensent vraiment qu'on apporte des canapés, des trucs. Donc il faut se méfier parce que nous, on commence à peine à s'installer autour de la table et tout ça. Alors on se présente, on se présente. Il est là. Il est là depuis 3h du matin à tenir seul l'antenne de Radio Nova. Avec d'énormes thermos à café, avec des paquets de gitanes sans filtre, avec une photo de sa famille sur laquelle il pleure des larmes de sang, c'est Thierry Paré.
Bravo. Ouais.
Merci. Merci bien.
Il vient de réparer, comme chaque matin, toute l'installation technique de Radio Nova tout en répétant des textes pour des spectacles à venir. Il a les mains en sang, il a des clés de 8, des clés de 12, des boulons. Il est prêt à transformer les micros en pots de yaourt, les pots de yaourt en micros. C'est Armel M.
Oui, ouais.
Merci.
Refusé dans plusieurs zoos, les enfants lui crachent dessus. Il n'a pas de parents, il n'a que des amis, c'est nous, c'est ammoniacal.
Ouais, ouais, ouais.
C'est notre correspondant dans le sud-ouest, notre correspondant Lac d'Ourthin, ami de la nature, des choses vraies. Et pourtant il est toujours à Paris, on ne sait pas pourquoi, c'est Tito.
Ouais,
c'est
moi, ouais.
Il y a aussi Thomas Baumgartner, le cerveau de cette émission, un homme qui comprend tout, qui digère tout, qui restitue tout avec élégance et savoir. Il y a aussi...
Bravo Thomas.
Eugénie qui organise toute cette émission, même si elle n'a pas l'air organisée. Pour avoir l'air désorganisée, il faut énormément d'organisation derrière. C'est un physique et un cerveau, c'est une belle âme, c'est Eugénie Poumaillou.
Bravo.
Ça va, pas bah, tout le monde non plus, il n'y a pas...
Excusez-moi, on ne m'a pas présenté.
Ah, et puis il y a le poète Jean-Noël Mistral.
Là, c'est Yves Duteil.
Ah, c'est Yves Duteil. L'auteur de « Prendre un enfant par la main ». Rappelez-nous votre travail.
« Prendre un enfant par la main pour lui montrer son chemin et puis lui dire combien on l'a aimé. Prendre un enfant par la main. »
Avec Yves Duteil, un invité spécial, le journal de Thierry Paré. Vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps, Yves. Hein, vous n'êtes pas obligé de rester toute l'émission.
Donald Trump relance la guerre des oléoducs. Le gouvernement Obama...
Et les mecs qui ont décidé d'être pro-Trump à mort, d'être super, de laisser sa chance à Trump. Yes!
Le gouvernement Obama avait bloqué deux projets dans le Nebraska et dans le Dakota. Le nouveau président américain vient de les autoriser. Le projet le plus emblématique, et vous vous en souvenez sans doute, c'est Keystone XL, activement combattu par les écologistes. Il doit relier les champs de sable bitumineux de la province canadienne de l'Alberta aux raffineries américaines du golfe du Mexique. Quatre mois après avoir annoncé son projet de céder Patogaz, Chevignon et Cucaille, Vivarte a dévoilé hier à ses salariés qu'il allait aussi mettre en vente deux de ses griffes les plus emblématiques, Naf-Naf et André. Le leader français de l'habillement entend également fermer 142 des 680 magasins, la halle aux chaussures. Toutes ces opérations devraient évidemment se traduire par plusieurs centaines de suppressions de postes. Les derniers chiffres du chômage du quinquennat, tiens justement, après trois mois consécutifs de baisse, le nombre d'inscrits en catégorie A à Pôle emploi est reparti à la hausse en décembre, plus 25 900 chômeurs. Sur l'ensemble de l'année 2016, le nombre d'inscrits en catégorie A a certes reculé de 111 300, mais depuis l'élection de François Hollande, il y a eu 600 000 chômeurs de plus.
Donc ça veut dire qu'il ne va pas se représenter, François Hollande. Moi, je ne suis pas bien les élections.
Je ne suis pas certain qu'il se
représente. Parce qu'il avait dit
pas,
que ça dépendait... Peut-être si le mois prochain c'est mieux, il va revenir sur sa décision de se décider par rapport à revenir sur les décisions au cas où.
Quand Manuel Valls lâche ses coups, après le revenu universel, il cible Benoît Hamon sur la laïcité, lui reprochant des ambiguïtés supposées face à l'islamisme radical. De quoi muscler encore davantage, peut-être, le débat de ce soir entre les deux candidats à la primaire, débat télévisé. Face aux critiques de Manuel Valls, Benoît Hamon a répondu ceci: le communautarisme, je le combats autrement que par des mots. Selon le Canard enchaîné, Pénélope Fillon, la femme de François Fillon, aurait perçu quelques 500 000 euros bruts en tant qu'attachée parlementaire. Il n'est pas interdit aux parlementaires de faire embaucher des proches comme collaborateurs, à condition qu'il ne s'agisse pas d'emplois fictifs. Et là, on n'en sait rien.
Oh, bah vous voyez, on ne sait pas si on dénonce, pas. Vous aviez juste envie de dire le mot Pénélope Fillon ce matin, parce que ça vous fascine.
C'est un joli prénom, Pénélope.
Voilà.
Israël annonce un plan massif de nouveaux logements dans les colonies. L'État hébreu envisage la construction de quelques 2500 nouveaux logements dans des colonies juives en Cisjordanie, une décision qualifiée de regrettable par l'Union européenne. Sans surprise, le Parti social-démocrate allemand choisit l'ancien président du Parlement européen, Martin Schulz, pour affronter Angela Merkel dans la course à la chancellerie à l'occasion des prochaines législatives. Ce sera au mois de septembre.
Très belle image, cette course course à la chancellerie, c'est un petit peu, moi je connais la course en sac, on est dans des sacs de pommes de terre, et aussi celle où on a un œuf dans une cuillère qu'on tient à la bouche. Excusez-moi.
Bah, je ne sais pas ce que tu fais tes week-ends, mais bon. En nutrition comme en science, rien n'est jamais figé, en témoigne la publication des nouveaux repères de consommation alimentaire par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. 10 ans après la diffusion des premiers spots, manger 5 fruits et légumes par jour, de nouveaux messages sanitaires pourraient faire leur apparition. L'Agence sanitaire recommande notamment de réduire la consommation de charcuterie, on n'apprend rien, et de renforcer celle des lentilles, des fèves et des pois chiches. La La Land, sur la route des Oscars, la comédie musicale de Damien Chazelle, réalisateur de Whiplash, a décroché 14 nominations hier pour la cérémonie du 26 février prochain. On suivra aussi de près Isabelle Huppert, nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice pour sa performance dans Elle de Paul Verhoeven. Puisqu'on parle cinéma et récompense, les féministes auront eu raison de Roman Polanski. La campagne menée sur Internet contre le réalisateur franco-polonais a porté ses fruits puisque Roman Polanski renonce à présider la prochaine cérémonie des Césars. Le mondial de handball, victoire des Bleus dans la douleur, mais victoire quand même pour les demi-finales. Les Bleus se qualifient pour les demi-finales. Ils ont battu les Suédois hier soir 33-30. Ils affronteront la Slovénie demain. La Coupe de la Ligue, le PSG a battu Bordeaux hier soir 4-1 et se qualifie pour la finale. Il rencontrera soit Monaco, soit Nancy qui s'affrontent ce soir. Et puis la CAN, juste pour vous signaler la qualification, c'est un peu pas inespéré, mais bon, inattendu, du Maroc.
Merci Thierry. Qu'est-ce que vous avez dit sur la consommation, sur les produits à charcuterie?
C'est l'agence sanitaire qui dit d'arrêter de manger de la charcuterie.
Alors tout de suite un invité pour agir. Bernard Lecochon, bonjour Bernard. Bernard, tu es, on peut se tutoyer? Alors on essaie. Tu parles le français?
Un peu.
Oui. Bernard, tu es cochon dans une ferme modèle dans la Sarthe, à côté de la Flèche. Tu apprends ces nouvelles là qui viennent de tomber des téléscripteurs.
Bah ça nous fait mal parce que ça, bon, déjà qu'on vit à 40 dans 10 mètres carrés, qu'on s'ennuie à ne pas faire de sport, à essayer de regarder la télé tous les jours.
Oui, alors tu as l'accent suisse. Bernard, oui. Le problème, c'est que ce que tu cherches à nous dire, c'est que déjà que tu vis dans des conditions déplorables et tu as l'impression de ne servir à rien.
Il n'y a pas de débouché
parce que c'est quand même une chance pour un cochon de terminer, par exemple, en pâté raffiné, haché avec des... En français, plutôt.
Oui.
C'est une belle... Il y avait des bons débouchés.
De savoir qu'on peut être servi par un bon maître d'hôtel dans un hôtel en Suisse ou n'importe où. Et puis, voilà, contenter les êtres humains, parce qu'on est là pour ça, on a été conçu par Dieu.
D'accord.
Pour ça, c'est Dieu qui nous a donné le bon goût. Le bon goût de...
Tu as l'accent de Jean-Luc Godard, c'est tout de suite mon invité, le créateur de l'accent suisse du cochon Bernard. Jean-Michel Accent Suisse, bonjour.
Bonjour.
Jean-Michel, vous fournissez des accents suisses à des humoristes en manque de blagues. Alors vous avez, pendant des années, vous étiez fournisseur d'accent belge, vous avez fourni de l'accent canadien. Cette année, vous me dites, c'est l'accent suisse qui revient dans le stand-up et le one-man show.
Oui, c'est ça. C'est tout l'hiver, on va essayer de vendre de l'accent suisse. Et ensuite, je pense que cet été, ça va plutôt... partir.
Alors je sais que Kev Adams vous a pris 3 accents suisses pour son prochain spectacle. Oui. Il y en a à la télévision, il y en a dans le stand-up. Jamel est intéressé. Comment vous les démarchez? C'est un lobby?
On a plusieurs commerciaux. On a des commerciaux. Il y a Marie, il y a Mathilde, ouais. Jean-François.
Mathilde, c'est la grosse dame?
Bah quoi?
Ah, c'est une très grosse dame.
Non, dis pas ça.
Merci en tout cas. C'était vraiment super d'en apprendre plus sur vous. Oui, Marie Missé. Tout à l'heure, j'ai présenté toute l'équipe.
Oui, sauf
vous n'étiez
moi.
Pas là.
J'ai remarqué.
Pourquoi vous étiez... Non, vous étiez caché comme une toute petite souris grise. Alors que vous êtes le phare incandescent, oui, de cette émission.
Soleil.
Vous êtes. C'est une lumière. Une lumière dans la nuit. C'est un espoir pour les gens perdus en mer. De même que les marins ont la lune, les auditeurs de Nova ont Marie Missé. Quand vous êtes seul chez vous, une voix, raccrochez-vous, attachez-vous, encordez-vous. Première de cordée, Marie Missé vous emmènera vers les sommets.
Oh, je peux pas faire mieux. Après, c'est quelqu'un d'autre.
Allez, à tout de suite avec tous les invités, tous les enfants. Ben, on voit quelque chose.
Plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird.
Oh mon Dieu, il me caresse l'oreille, ce con.
On est obligé d'interrompre ce morceau, mais ça s'arrangera, on lui enverra des fleurs, parce qu'on a notre correspondante IRC à la demande générale, Pat, rappelez-vous, Pat. Pat, notre ami Pat, Mr. Good Vibes, qui tient le Café Nova, est en ce moment, il a été délocalisé à Angers. Bonjour Pat.
Bonjour Edouard, comment vas-tu?
Pat, de cet endroit d'Angers, de cette tour d'ivoire où tu contemples la société, tu fais ton papier chaque matin, comme on dit, hein?
Absolument, je fais le papier pour le tiercé de l'après-midi.
C'est-à-dire que tu achètes quoi comme journal? On ne sait pas trop.
Ben, la Bible des turfistes, Paris Turf, bien sûr.
Paris Turf, la Bible. Alors, on est avec Pierre-Étienne Minonzio de l'équipe. Il n'y a pas de course de chevaux dans l'équipe?
Non.
Ah, c'est grave. Alors, Paris Turf ce matin, Pat, sois gentil pour l'auditeur Nova qui rêverait. Donne-nous un coup facile. Par exemple, j'arrive avec 10 euros et je voudrais repartir avec 100. C'est grave,
alors,
j'ai le droit quand même.
Je suis
français, je suis né ici, j'ai le droit de repartir avec 100.
Alors, qu'est-ce que je fais? Pardon, tu peux le revendiquer, Edouard, tu fais dans la première course.
Il y a des revendications à la con.
Tu fais dans la première course à Cagnes-sur-Mer aujourd'hui, c'est le quintet. Tu fais le 14 parce qu'il y a un bataille.
Alors, le quintet à Cagnes-sur-Mer, c'est quelle course? C'est la quantième.
Première course
à Cagnes-sur-Mer, d'accord. J'arrive, voilà. Je joue le 14.
Le 14 et le 6.
Oui.
Couplé, gagnant placé, tu mets tes 10 euros, couplé, gagnant placé.
Alors, auditeur de Nova, c'est un engagement va marcher ou pas?
Ouais, ouais,
je m'y engage aujourd'hui. Donc 14 et 6 dans la première à Cagnes-sur-Mer. Et on rappelle pas demain. Si jamais on s'est trompé, ce qui n'aura pas lieu, je vous donnerai son adresse. Je vous donnerai code de chez lui. Ah bah si, mon vieux. Donc, dis-nous le nom de ces deux chevaux pour nous faire rêver.
Alors, Baby Lou de Max.
Pardon?
C'est beau, ouais. Baby Lou de Max.
Baby Lou.
Ouais, Baby Lou Max.
Ouais, bah,
et Canary Match.
Bon, Canary Match, enfin le 14 et le 6,
voilà,
dans la première à
4.
Baby Lou,
absolument.
J'ai rien compris à au nom. Baby Lou et...
Non, Baby Lou Max.
Baby Lou Max, ben dis donc, c'est
voilà.
Pas le nom de tout le monde.
Canary Match.
Match, et Baby Lou Max et Canary Match, soyez gentils. Jouez, voilà. Faites fortune aujourd'hui. Et puis si ça n'a pas marché, je vous donne l'adresse de Pat. Merci beaucoup. Mettez-moi un truc d'invité, s'il vous plaît. Salut Pat, tout va bien Angers?
Impeccable, il fait beau.
Tu as une superbe voix, on voit que tu viens de venir au monde. Tu as quoi, 14-15 ans?
Ouais, 15 ans, ouais.
Ouais, plus la tranche des 50-65.
Ouais, bien sûr.
Merci mon Pat, à tout de suite. Pierre Gagnon, vous avez écouté Pat?
Oui, j'ai écouté Pat.
Et vous êtes spécialiste en voix humaine, vous m'avez dit, ça m'a fait du bien le matin.
C'est-à-dire que, oui, chaque voix, en fait, j'essaye d'en extirper la substantifique moelle. La fréquence, en fait, me donne de l'énergie, m'énergise.
L'énergie, c'est important. Une bonne matinale, vous me disiez hors antenne, c'est d'abord un bon coup de pêche, un bon coup dans la gueule afin de... Vous n'avez pas fini cette phrase, afin de... Vous en étiez
c'est
à la fin.
C'est 2% de croissance en plus par jour.
2% de croissance en plus, une matinale dynamique. Pierre-Étienne, bonjour.
Bonjour.
Pierre-Étienne Minonzio, vous appartenez à cette famille d'immigration italienne, les Minonzio. Quelle est l'histoire de votre nom de famille?
Exactement, mon grand-père est d'origine italienne. Il est venu au début des années 20 à Dijon. Voilà.
Est-ce que ça aurait été un rêve pour lui de se dire que son petit-fils était à l'équipe, ce journal emblématique de la France?
Je crois pas, parce qu'il n'était pas forcément dingue de sport. Je suis pas du tout dans une famille qui était intéressée par le sport. J'étais un peu le seul, voilà. Donc, pas vraiment.
C'est cette grande confrérie des gens qui lisent l'équipe le matin. C'est le quotidien le plus vendu en France, l'équipe?
J'ai envie de répondre oui, même si c'est pas vrai, mais c'est bien de le dire. Donc,
et de loin. Avec Ouest France et Ouest France, ou c'est l'équipe?
Oui, mais en fait, ça varie vachement selon les classements. Mais on va dire que c'est un des quotidiens les plus lus.
Alors, ça varie suivant peut-être ce que vous mettez en une. Le handball, par exemple, parce que je voulais qu'on parle un peu de handball avec vous. Est-ce que ça fait vendre, le handball?
Le handball. Oui, dans le sens où en ce moment, il y a quand même effectivement un championnat du monde qui se déroule en France et on sent bien qu'il y a quand même un engouement autour de cette compétition. Et par exemple, ça va être intéressant de voir ce matin, de regarder les chiffres d'audience, parce que le match de l'équipe de France était diffusé hier en partie sur TF1 et ça a sans doute fait plusieurs millions de téléspectateurs. Et voilà, si cet engouement se confirme, et ben nous, on va continuer à faire des unes d'ici, je pense, la fin de la compétition.
Vous êtes obligé de suivre un peu quand même l'engouement des Français pour...
Oui, disons qu'à un moment, l'équipe était un peu le journal qui pouvait se permettre de mettre en avant certains sportifs qui étaient moins connus et de dire, voilà, on le met en avant, on le met en une parce qu'il mérite vraiment d'être considéré. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a une telle pression économique, on est obligé de vendre et voilà. Et c'est plus difficile, disons qu'on a plus tendance à mettre le foot, c'est plus une garantie de vente, quoi.
Alors le problème dans la pression économique, l'obligation de vente, c'est que de l'autre côté, on nous oblige à acheter. Donc là, il y a beaucoup d'obligations. Pierre-Étienne, est-ce que c'était le parent pauvre un peu, le handball? On avait le foot, le basket, et le handball, c'est quoi? C'est moins connu, c'est plus compliqué à expliquer et à suivre?
Pas forcément, mais c'est vrai que longtemps en France, c'était un peu considéré comme le sport de préau. Et là, quand même, l'image de ce sport a quand même beaucoup changé, je dirais, depuis une quinzaine d'années, parce qu'il y a quand même, grâce à l'équipe de France, on est quand même sur une accumulation de résultats qui est assez exceptionnelle. En fait, tout sport confondu, c'est très rare qu'une équipe de sport collectif arrive à être très, très efficace et très, très victorieuse sur le très long terme. Et donc là, l'équipe de France de handball, c'est exceptionnel. Depuis 15 ans, elle a remporté, je crois, 9 titres majeurs. Et c'est une régularité de succès qui est vraiment fantastique, quoi.
Il y a des régions de handball en France. Il y a des villes symboliques.
Oh, c'est relativement bien réparti quand même. Par exemple, c'est vrai que le rugby, on dit souvent, c'est le sud-ouest. Le hand, c'est un peu mieux réparti comme discipline.
Dites-moi, 2-3 grandes villes de hand, c'est pas Montpellier?
Oui, Montpellier, c'est un club historique, effectivement. Mais ouais. Paris, ça se développe aussi. Des villes comme Nantes, Toulouse aussi ont des bons clubs.
Je vais vous demander de nous aider sur un fond musical proposé par Armel M. Les règles du handball expliquées en très simplement quelques phrases. Le handball par Pierre-Étienne Minonzio de l'équipe.
C'est un sport
oui.
très sympathique qui se déroule à 7 contre 7.
Alors c'est équitable.
7 c'était, c'est 7 contre 7, voilà. Et il y a un gardien. Et après, disons que c'est assez simple, quoi.
Bah pour le moment, vous n'avez rien dit à part le fait que ça soit simple.
C'est, ouais, voilà. Et non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Je pense que ça fait partie de ces sports qui sont, je veux dire, complètement intuitifs, en fait. Contrairement, par exemple, au rugby, où il y a vraiment des règles spécifiques. Je veux dire, le hand, vous regardez un match, c'est très, très simple à comprendre, en fait. C'est simplement l'équipe qui a marqué le plus de buts a gagné le match.
Alors, 7 personnes contre 7, un ballon. Mmh.
Un ballon.
Qu'on touche avec quoi?
Avec
les mains.
Plutôt les mains, comme l'indique le nom de ce sport.
C'est en anglais hand, donc la balle à la main, le handball.
Mais en fait, c'est plutôt un nom allemand à la base. Parce oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on dit handball et pas handball, comme parfois j'ai pu l'entendre sur cette antenne.
Oui,
moi il faut dire les choses.
Et en revanche, je dis basketball et football.
Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est hand, c'est un nom allemand. Voilà. Et donc, effectivement, on ne joue qu'avec la main. Voilà. Donc,
avec des casques à pointe.
Calmez-vous, c'est fini la guerre 14-18. Donc on se passe la balle et on doit marquer dans quoi? Il faut revenir aux fondamentaux.
Il faut revenir aux fondamentaux. Mais Edouard, vous avez déjà regardé un match de hand?
Mais moi, je pense aux éditeurs. Moi, évidemment, j'ai tout lu sur le handball. Vous pensez bien.
Vous avez fait une monographie, d'ailleurs. Oui.
Handballeur moi-même. Donc, il y a des filets.
Oui, c'est ça. Mais c'est comme toute proportion gardée est un peu caricaturale. C'est un peu comme le foot. Sauf qu'il y a des buts qui sont beaucoup plus petits et ça se joue à la main. Voilà, 7 contre 7.
Est-ce que vous conseilleriez pour le développement d'un enfant de l'inscrire au handball?
Oui, disons que c'est un sport qui est quand même où il y a beaucoup de contact physique. Et là encore, ça peut se ramener au rugby dans le côté, ça peut être violent parfois, mais c'est un beau sport d'équipe et qui, en France, on est quand même un des sports où, disons que on est parmi les meilleurs du monde. Donc, voilà.
On ne les voit jamais se battre sur le terrain. En rugby, on se file des pêches.
Ouais, y a parfois c'est plus rare, effectivement.
Tito, chez vous, dans le sud-ouest, vous avez pratiqué enfant le handball?
Non, pas du tout. Moi.
Vous êtes un enfant de Valis?
Oui, tout à fait, le rugby. Nous,
T'as moulonné, t'as mis des...
On se tirait des patates, on courait sur le terrain, on allait boire des bières.
Que dire face à ce cri du cœur d'un ancien enfant? Pierre-Étienne, est-ce qu'on a bien servi la cause du handball?
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'équipe de France va jouer la demi-finale des championnats du monde demain. Et puis, il faut regarder, ça va être sympa, ça va être contre la Slovénie. Et voilà, il faut soutenir l'équipe de France, c'est plutôt sympa.
Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, si on ne gagne pas contre une équipe en sport, on peut lui déclarer la guerre? Est-ce qu'on peut s'énerver contre les Slovènes?
Je pense que c'est plutôt déconseillé, de manière générale.
C'est le pays de Madame Trump, la Slovénie? Je crois. Hein.
Ah, j'ai l'impression.
Donc il faudrait pas, oui, c'est peut-être beaucoup pour eux la même année. Merci.
Merci à vous.
Pierre-Étienne. Vous m'avez donné envie d'acheter un ballon, un filet et 6 amis pour être 7.
Et continuez de parler de hand sur notre antenne.
Toujours. Tout sera dévolu au hand, surtout si vous me donnez cette petite enveloppe que vous m'avez
proposée. Oui, dont on avait parlé.
Vive l'équipe, très bonne journée.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Très étonnant, c'est cette fin de morceau. Est-ce que c'est prévu dans le morceau? Parce que Armel, c'est un truc un peu punk que vous avez décidé.
Ouais, j'avais envie de terminer, d'en finir.
Jack souvent part dans les rues. On en avait un peu marre d'être toujours dans les rues de Paris. Alors on est parti, Jack a décidé d'aller dans d'autres villes le matin. On est à La Rochelle ce matin. Jack marche entre les embruns.
C'est combien? On s'est arrêté de marcher. Là, je suis avec Jeff. On est dans un... à la gerbe de blé. Au marché central, oui, de La Rochelle. Je suis derrière le comptoir avec lui, il m'a embauché. Voilà, comme ça, il peut boire du café et servir du café. Comme ça, moi, je me repose ce matin.
Bonjour, c'est Jeff.
Bonjour.
C'est quoi le marché central à La Rochelle?
Ah, c'est le marché alimentaire le plus important de La Rochelle, en plein cœur de ville.
Alors,
tous les jours.
Oui, pardon.
Oui, tous les jours, c'est ouvert.
Et aujourd'hui, c'est un marché intermédiaire parce qu'il y a des marchés de rue également, comme le samedi.
C'est un marché pour les particuliers ou pour les professionnels ?
Que pour les particuliers, enfin particuliers et professionnels, mais principalement le particulier.
Alors il fait encore nuit, vous êtes, c'est un marché couvert ?
Alors moi je suis un bar qui est aux côtés du marché central, ce qu'on appelle les échoppes, et le marché est ouvert bien sûr depuis déjà 5h du matin, pour que les bouchers, enfin tous les commerçants puissent se mettre en place. Moi j'ouvre à 6h pour servir les cafés.
C'est quoi l'ambiance ce matin, Jeff ?
Ben, il fait un peu frisqué quand même, hein ? Mais bon, autrement, l'ambiance est toujours sympa, parce que quand on aime travailler au marché, on ne peut pas s'ennuyer. Moi, je dis souvent que si on regarde ses pieds le matin quand on va au boulot, ben, vaut mieux changer de métier. Et moi, ce n'est pas le cas, je ne regarde pas mes pieds, je regarde devant, parce que j'aime bien venir au marché. Ça fait 20 ans que j'y suis, et je ne suis pas prêt de partir.
Moi, je regarde mes pieds quand je marche, c'est que ça m'arrive. Alors, et puis, je suis aussi avec Maryse, qui est au comptoir. Bonjour, Marie.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Bonjour Edouard Baird.
Bonjour Maryse.
Salut, ça va ?
Salut, vous avez une voix formidable, vous pourriez tenir la radio la nuit, on adorerait se confier à vous. Est-ce que vous recueillez les confidences de vos amis ?
Si vous voulez, vous pouvez m'appeler Macha, c'est pas un problème.
Est-ce que, Maryse, est-ce que les gens aiment bien vous raconter leurs histoires ?
Oui, mais je pense pas que ce soit à cause de ma voix en fait.
Non, c'est pas... Mais la voix, c'est l'expression de l'âme, hein. C'est votre âme qui est belle, Maryse, je sens.
Vous en êtes un autre, mon cher.
Oh là là, quelle ambiance. Racontez-nous, Maryse, un peu ce que vous avez entendu de vos amis, là, ces jours-ci.
À La Rochelle.
À La Rochelle.
Il fait froid, alors ils ont tous froid. Mais c'est très, très beau parce que le soleil continue à briller. Et sinon, La Rochelle, voilà, quoi, c'est une ville sympa. Pour ma part, il faut que de temps en temps, j'aille faire un tour à Paris quand même.
Vous êtes une enfant de la mer, Maryse, ou pas ?
Non, pas du tout.
Pas du tout, mon vieux. Alors là,
mais, je suis devenue, pendant un laps de temps, une femme de la mer, parce que j'ai navigué grâce au fait que j'habite ici, quoi.
Ah, vous naviguez ? Vous naviguez pour le plaisir ou vous pêchez ?
Non, j'ai navigué pour le plaisir sur un magnifique bateau qui est ici à La Rochelle depuis très très longtemps, qui s'appelle Notre-Dame des Flots.
Oui.
J'ai fait Plymouth-La Rochelle, c'est dingue.
Seul en mer ?
Ah non.
Seins nus ?
Ah non, avec plein de monde autour de moi. Mais, voilà, adorable parce que je ne sais pas trop le faire, la navigation, moi. C'est pas trop mon truc, quoi. Enfin, si, j'aime être sur l'eau, mais je ne sais pas les nœuds, comment ils s'appellent, quand on me dit fais ci, fais ça, et qu'on ne me donne pas la traduction, je ne sais pas le faire.
Il faut s'asseoir dans ces cas-là, quand on ne sait pas, il faut s'asseoir.
C'est ce que je fais, puis je contemple. Voilà.
Merci Maryse. Je voudrais que Jeff me donne 5 bonnes raisons pour venir s'installer à La Rochelle sur une musique d'Armel.
Jeff, il est en train de rendre la monnaie sur un billet de 50, là.
Ouais.
Alors, le banquier, là. Les 5 bonnes raisons de venir habiter à La Rochelle. Et d'y rester.
Les 5 bonnes raisons. Je ne sais pas, je ne vais pas vous en citer toutes, mais bon.
Attention, Jeff.
On va essayer. Allez, alors la bonne raison, c'est qu'il fait toujours beau à La Rochelle.
Oui.
La deuxième raison, c'est que les gens sont sympas.
Oui.
La troisième raison, c'est que les commerçants de La Rochelle sont très sympas.
Oui.
Ils sont dynamiques.
Oui.
Parce que c'est la gueule.
Oui.
Non, ils ne vont pas me casser la gueule. Allez, ça fait 20 ans que j'y suis, j'ai dit que je resterai encore plus longtemps. Donc ça prouve bien que. Et en plus, c'est que les gens reviennent. Et on a des habitués de toute la France qui viennent nous voir tous les 2 ou 3 mois. Et c'est un lieu de rendez-vous souvent à La Rochelle.
Là, voilà. Jeff, vous allez sauter la 5e.
Sauf que
oui.
Les prix sont un petit peu chers, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Hein, Jeff, merci. Est-ce que ça fait mal au cœur de rendre la monnaie sur 50 euros ?
Pas du tout. Pas du tout, c'est que les affaires marchent.
Très bien.
C'est
merci.
Comme ça qu'on voit les choses. Au revoir.
Salut, Maryse et Jeff.
Bonne journée,
salut, du bateau. Ouais, du bateau. La Marie Galante n'est pas rentrée. Les mouettes, vos gueules, les mouettes. Vladiri paraît. Chaud devant, je tâche. Ah, poil. Oh, tu la vieille, c'est le printemps. Alors, Thierry, ouais. Peut-être déjà.
Le leader français de l'habillement.
Peut-être déjà, rebonjour.
Rebonjour, voilà. Peut-être déjà pour commencer, t'as raison.
Le leader rappel français des titres de 7h33.
Le leader français de l'habillement Vivarte a dévoilé hier à ses salariés qu'il allait mettre en vente 2 de ses griffes les plus emblématiques, Naf et André. Il va aussi fermer 142 des 680 magasins, la Halle aux chaussures. Après 3 mois consécutifs de baisse, le nombre d'inscrits en catégorie A à Pôle emploi est reparti à la hausse au mois de décembre, plus 25 900. Le ton monte entre Manuel Valls et Benoît Hamon, alors que les deux candidats à la primaire se retrouvent ce soir pour leur débat de l'entre-deux-tours. L'ancien Premier ministre relance l'offensive sur la laïcité, reprochant à Benoît Hamon ses ambiguïtés en la matière, notamment face à l'islam radical. Selon Le Canard enchaîné, Pénélope Fillon, femme de François Fillon, aurait perçu quelques 500 000 euros bruts en tant qu'attachée parlementaire. Il n'est pas interdit aux parlementaires de faire embaucher des proches comme collaborateurs, à condition qu'il ne s'agisse pas d'emplois fictifs. Donald Trump relance la guerre des oléoducs. Le gouvernement Obama avait bloqué deux projets dans le Nebraska et le Dakota, dont le fameux Keystone XL. Et bien, le nouveau président américain, lui, vient de les autoriser. Israël annonce un plan massif de nouveaux logements dans les colonies. L'État hébreu envisage la construction de quelques 2500 nouveaux logements. Sans surprise, le parti social-démocrate allemand choisit l'ancien président du Parlement européen, Martin Schulz, pour affronter Angela Merkel dans la course à la chancellerie. La La Land sur la route des Oscars, la comédie musicale de Damien Chazelle, réalisateur de Whiplash, a décroché 14 nominations hier pour la cérémonie du 26 février prochain, égalant notamment le record de Titanic. France, Slovénie et Norvège-Croatie, voilà le programme des demi-finales du mondial de handball. Ce sera demain. La France hier a battu la Suède. En football, Monaco attend Nancy ce soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Le vainqueur de la rencontre aura le privilège d'affronter le PSG. En finale, le PSG a battu Bordeaux hier soir 4-1. Et puis toujours en foot, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Les Marocains ont battu les Ivoiriens hier 1-0 et se sont qualifiés pour les quarts de finale. Tenante du titre, la Côte d'Ivoire est-elle éliminée?
Merci. Alors on a un petit scoop quand même, Armel. Il y a un natif qu'on connaît bien ici, qui vient souvent nous voir, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes hacker? Vous êtes, qu'est-ce que vous êtes exactement?
Exactement, on est hacker.
Alors, Eczema 34, bon, c'est un pseudo, évidemment. Bon. Vous m'avez expliqué que vous arriviez aujourd'hui, au départ d'une radio, de rentrer dans les programmes d'autres radios, c'est ça?
Oui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire ça d'ici quelques minutes.
Là. Alors, c'est-à-dire que là, on est Radio Nova. Ouais. Et si je veux aller, par exemple, je me dis, tiens, j'aimerais que Radio Nova passe en direct sur une autre radio. Vous pouvez le faire.
On peut le faire, oui.
Alors, Armel.
Oui.
Alors, allez à côté d'Armel. Vous foutez pas. C'est à partir du logiciel, là, d'Armel.
Je ne comprends pas comment on va faire, mais bon, si vous êtes hacker.
Bon, alors on va essayer. Est-ce que je peux vous dire une radio, on y va? Je veux être en direct et sur Nova et sur France Inter dans 6 minutes, c'est jouable?
On peut faire ça, ouais. Ça va être assez facile, en fait.
C'est ça, non?
Hein?
C'est un peu chaud.
On a le droit de faire ça?
Pas cool. Non, mais ok. Alors envoyez, on prépare ça. On commence à préparer ça. À tout de suite. Est-ce qu'on repasse par de la pub ou
de
comme
la
ça,
pub?
On sera débarrassé de la
oui.
pub.
À tout de suite.
On en sera débarrassé.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Alors, on est dans l'illégalité la plus totale, puisqu'on est avec Eczema 34, le hacker.
Ouais.
Donc là, on est sur un... Allez-y, mettez-nous.
C'est sauvage au France Inter.
Alors ça, c'est Inter.
Ça fonctionne.
Alors là, on écoute sur un Inter, mais il n'y a pas de mire. Eux, ils ne m'entendent pas, là.
Pas encore.
Allô, allô, allô. Non, c'est le journal d'Inter.
Mais nous, on les entend bien.
Nous, on les entend. Mais alors, essayez de faire un truc. Alors, envoyons un peu de musique. Continuez à bidouiller votre truc. Et on essaie d'entrer.
Edouard, je vous conseille quand même, camouflez-vous. On ne sait jamais. Il y a des caméras de sécurité à Inter. On pourrait nous reconnaître.
C'est-à-dire, si on est en direct sur Inter. Eux, ils ont des caméras, ils peuvent voir
qu'ils ont des caméras.
Allez, allez,
tout le monde
vous sécurise. Tout le monde. Passez des visuels.
Okay.
Mettez un peu de musique, Armel.
Oui.
Tout le monde se met un truc. Viens là. Titi, viens. Madame.
Là, j'ai vu jouer sur la même
chose. Ok. Attention, oui. Alors, continue. Ça y est, tout le monde est camouflé dans le studio. Alors ça, on écoute le journal de France Inter, vous ne vous êtes pas trompé de radio, vous êtes toujours sur Nova, mais on va essayer d'entrer en direct, dans le direct de France Inter, dans l'émission de Patrick Cohen. Là,
ça,
on est à Eczema.
Ça marche.
Hein?
Ça a marché.
L'instant M, tout à l'heure sur France Inter, à 9h40.
Pour le moment, c'est très bizarre, je suis en train de faire la pub pour Inter.
Il est 7h43.
France Inter.
Mon Dieu, on ne fait pas de hacking sans casser des œufs.
Oui. Je sais pas comment. Donc,
l'histoire du jour, vous la trouverez à la une du Maine Libre.
Oui.
C'est aussi le titre du jour. Elle sort fumée. Le TGV repart avec son bébé. Vous admirerez la sobriété de la phrase. 9 mots qui racontent la négligence d'une mère, les dangers du tabac, l'impuissance de stopper un train.
Oui, mais allô, Patrick Cohen, allô, Patrick Cohen.
Oui, qui parle?
Peu importe qui parle, c'est Edouard Baird, mais à la limite, c'est pas ça. Patrick Cohen?
Ah, Edouard.
Nova, ici c'est Radio Nova. Oui.
Comment êtes-vous entré sur nos ondes?
C'est pas grave, vous savez, Patrick Cohen, l'important n'est pas de savoir qui c'est finalement.
Oui.
C'est pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas plus, vous voyez ce que je veux dire, Patrick? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous enfermer dans un système cloisonné.
Ah.
Je crois qu'il faut arrêter ces radios qui ne parlent qu'à leurs propres auditeurs.
Oui, mais vous, vous n'êtes pas en train d'animer une matinale?
Non, pas du tout. Patrick, arrêtons tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en 2017. Aujourd'hui, les gens font deux choses à la fois. Les gens sont en train de donner un rendez-vous amoureux et de checker leur Instagram en même temps. Eh bien, je crois que nous aussi, à la radio, Patrick, aujourd'hui, il faut qu'on accepte de parler aux deux oreilles à la fois. Il faut qu'on accepte d'être à la radio, à la télévision, dans la vraie vie. Patrick, aujourd'hui, avec Léa Salamé, Thomas Legrand, vos invités, Bernard Accoyer, les gens de la politique, les gens de la vie locale, les gens de proximité, il faut qu'on accepte de tout ouvrir, de se parler les uns aux autres, de se regarder. Ça n'existe plus, tout ça, Inter, Nova, la télévision, les réseaux sociaux. Il y a un grand tout, Patrick, vous en faites partie. Ouvrez. Nous sommes les petits, nous sommes les 100 grammes, nous sommes les exclus des radios nationales, nous sommes des petits gars dans une cave de Paris, comme il y en a à Tourcoing, comme il y a des gens dans des greniers à La Rochelle. Eh bien aujourd'hui, nous parlons, nous écoutons. Trop de gens pour parler, trop peu pour écouter. Patrick, vous et moi, nous parlons, mais nous allons laisser la parole à cet énorme silence qui arrive de la rue. N'entendez-vous pas ces gens qui grondent et ces voix? Patrick, merci de nous laisser vous hacker. Ne nous envoyez pas les flics dès maintenant.
Non. Hein? Non, je mesure la portée de l'événement. Nous sommes sur l'antenne de Nova et vous êtes, Edouard, sur l'antenne de France Inter.
Je trouve ça très généreux de votre part. Je trouve que vous êtes un homme sans frontières. Vous êtes un homme de la parole donnée, de la main tendue, cher Patrick Cohen. Et puis, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Hein, qu'à un moment,
vous venez de le prouver.
Voilà, exactement. Nous sommes là pour parler de quoi, on le dira après. Salut. Voilà.
Bonne émission, Edouard. C'était Edouard Baird en direct de la matinale de Nova. Étonnant, non?
C'était Patrick Cohen en direct de la matinale de France Inter.
C'est votre invité ce matin.
Emploi fictif ou boule puant.
Ok, c'est parti pour quelques années de tôle. Eczéma 34, je crois qu'on m'a reconnu. Les autres étaient mieux camouflés. Mais ici, on va chanter cet énorme cri d'espoir qui vient d'avoir lieu, Paco.
Bonjour.
Paco, qui est observateur de la vie des médias depuis des années.
Je suis observateur de la vie des médias depuis des années. Et répéteur de phrases de questions dans l'affirmative, en fait, j'enlève le point d'interrogation puis je répète la phrase à chaque fois.
Tu as vécu un moment de liberté, tu as vécu un moment de possible.
J'ai vécu comme si j'étais gonflé dans une espèce de bourrasque, une sorte de changement possible, probable, mais qui n'y arrivera jamais, bien sûr. Mais on a cru que peut-être un jour le monde allait changer.
Alors une chanson peut-être pour illustrer ce moment.
Il faudrait que tout le monde fasse une ronde, main dans la main, autour du monde. Il y en a assez de voir tomber les bombes, assez de voir pousser les tons. Nova, et toi France Inter, donne-toi la main. Et toi Edouard, et toi Cohen, donne-toi la main. Et toi Donald Trump, et toi Poutine,
non.
Il faudrait que tout le monde fasse une ronde, main dans la main.
Demain, on appelle RTL Europe 1, Radio Classique, Énergie tous.
Viens, assieds-toi avec nous. Alors, viens là, parce qu'on était en train de répéter le poème qui va être formidable. Hein. Parce que là, tu sais, nous, on vient de... J'ai peur qu'on aille en prison, parce qu'on est allé sur une autre radio. Alors, tu veux t'asseoir à côté de moi comme ça? Il y a ta maman qui t'aide.
Oui.
Ah, oula, oui, parce que c'est très haut. Eh bien, on va t'envoyer, tu as droit à un petit générique.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Ça t'intimide pas de mettre le casque? Regarde, essaye de t'écouter, tu vas voir si ça te plaît ou pas. Vas-y, Anatole. Parle, dis quelque chose.
Bonjour.
T'aimes bien t'entendre ta voix?
Oui, j'entends ma voix.
C'est agréable ou pas?
ni agréable, ni pas agréable. C'est ma voix normale.
Mais est-ce que toi, quand tu parles sans le casque, tu t'entends dans la vie? Tu t'entends parler ou pas?
Oui.
Est-ce que parfois tu dis donc, mais je suis en colère là?
Ben non, quand je suis en colère, je me pose pas de questions.
Tu y vas, tu fonces quand tu es en colère?
Non, pas toujours.
Mais tu ne te poses pas de questions, tu n'as pas le temps de te poser de questions. Nous aussi, on a un poème qui s'appelle Jean-Noël Mistral qui va t'écouter.
Bonjour.
C'est un poème, un poète qu'on, à part ici, qui n'est pas tellement invité dans les médias?
Non, pas tellement, puisque souvent j'habite dans une forêt.
C'est peut-être pas lié à ça, c'est peut-être aussi au niveau des poésies parfois qui ne sont pas...
Qui ne sont pas quoi?
Bon, alors Anatole, tu as choisi un poème de Jacques Prévert?
Oui.
On l'écoute ensemble? Enfin, moi je l'écoute et toi tu le dis, c'est la différence.
Oui.
Alors ça s'appelle, on t'écoute. Ça s'appelle...
Pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermer doucement la porte avec le pinceau puis effacer un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'air dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Jacques Prévert.
Merci Anatole. Tu connais des animaux toi aussi ou pas?
Oui.
Qui tu connais comme animaux?
Bah le loup, le renard, le chat, le chien, le léopard, le vautour, l'aigle, le faucon. Oui.
Mais personnellement, tu connais?
Oui, c'est ça. Est-ce que tu as rencontré dans ta vie des animaux?
Oui.
Un chien?
Qui tu as rencontré comme animaux? Chez qui? Dans la nature ou chez des gens?
Chez une autre.
Chez des gens.
Qu'est-ce que tu te rappelles comme souvenir avec un animal?
Bah, des chats, des chiens.
Un qui t'aurait, que t'aurais caressé, qui t'aurait griffé, qui t'a rigolé?
Un insecte.
Que j'ai caressé. J'ai aussi vu des insectes, genre des araignées, des fourmis.
Jean-Noël, ça vous a touché le poème d'Anatole?
Je crissais à l'intérieur de moi un peu comme une orange qu'on aurait pelée sans qu'elle s'en aperçoive. J'ai senti comme si on était dans une obscurité la plus totale et puis sa voix nous a éclairés et nous étions complètement subjugués comme happés par des clochettes de muguet qui sonnaient dans la nuit.
Oui,
tu penses pas que tu as exprimé ça?
Moi je suis pas convaincu, moi Anatole, oui. Tu penses qu'il a raison, Jean-Noël Mistral? Oui, on est un peu perplexe là, avec Anatole, mais enfin c'est pas... Jean-Noël, vous avez des poèmes, vous aussi?
J'ai écrit ce matin un poème que j'avais déjà écrit.
Ah, vous l'avez recopié, ça s'appelle, en fait. On écoute le poème de Jean-Noël, Anatole, et on dit vraiment ce qu'on pense. On n'est pas obligé d'être gentil. Hein. Alors, on écoute un poème de Jean-Noël.
La sauterelle. La sauterelle.
Articulez, mon vieux.
La sauterelle. L'aube poincée au petit jour. Comme perlade de mon oreille.
Articulez, mon vieux.
Oui, pardon. Un son de cloche, parce que je me suis fait opérer.
Des dents?
Non, de la mâchoire.
Ah oui, c'est ça, parce que c'était fait fracasser. C'était fait casser la gueule.
Par les gendarmes.
Oui.
Parle mon oreille au son de clochette d'un troupeau de chèvres. La cigale ne crissait pas encore de son criqueton. Quand soudain, je vis devant mes yeux à mon réveil une belle sauterelle. Ses jambes étaient longues comme des faucilles. Saute, saute et bondit comme le guépard. D'herbe haute en herbe haute. Elle saute, saute, saute pour aller au hasard, au gré de son saut, parce qu'elle ne sait pas réellement où elle va. Elle s'est sûrement perdue. Elle a sauté enfin, une fois, puis deux. Puis elle a perdu de vue ses parents. Et puis elle a sauté encore. Et elle n'a plus rien reconnu. Alors, elle a pleuré, la sauterelle, de savoir, de ne plus revoir l'endroit de son enfance. Elle a sauté encore, sauté, et sauté encore, et sauté, et sauté, et elle a sauté encore. Mais jamais elle n'est revenue. Et si, 3 ans plus tard, elle est revenue.
Ah, voilà.
Elle avait de la barbe. Et là, elle a reconnu le sol pleureur, les champignons tachetés et une punaise qu'elle avait connue dans son enfance. On lui a fait une belle fête. Elle était si bien, si rassurée et si tendre. Mais quand, tout à coup, l'envie de ressauter l'a pris de nouveau. Alors, elle s'est retenue. C'est bientôt fini. Elle s'est retenue. Elle s'est retenue. Mais à chaque fois qu'elle se retenait, à chaque fois, elle faisait remonter d'autant plus le ressort de son prochain saut. Et quand elle a lâché, elle est allée jusqu'au bout du champ. Et personne ne l'a n'avait jamais revue. Je te raconte ça, sauterelle. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que tu vas... Ah, elle est partie.
Mon Dieu. Merci. Qu'est-ce que tu as pensé, Anatole, du poème de Jean-Noël ?
Moi, j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est plutôt une histoire.
C'est plus une histoire qu'un poème. Oui,
oui, mais si tu peux imaginer que c'est un poème...
Non, dis donc.
Dis donc, je suis pas un chien.
Et vous tu aimerais avoir ce poème à la maison, l'emporter chez toi, le poème ?
Bof.
Si ta maîtresse te disait de l'apprendre à l'école, tu serais content ?
Je te l'offre sur une feuille de chêne. Non.
Alors ? Réponds franchement, Anatole.
Est-ce
que si la maîtresse vous disait c'est ça que vous devez apprendre pour la semaine prochaine, ça te ferait plaisir ?
Bien sûr.
Il est trop sympa, Anatole. Moi, si on m'avait demandé, ça serait pas pareil. Merci, Jean-Noël.
Et vous, on sait ce que vous avez fait pendant la guerre.
Oui, bon, allez, allons-y.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Thierry Parret, le journal de 8h02.
Radio Nova.
Les sénateurs ont adopté cette nuit un texte qui assouplit les règles de légitime défense des policiers. Le texte définit un cadre commun de l'usage des armes à feu par la police et la gendarmerie, donc alignant la première sur la seconde, puisque les gendarmes disposent d'une plus grande marge de manœuvre en la matière. 4 mois après avoir annoncé son projet de céder Patogaz, Chevignon, Coucaille, Vivarte a dévoilé hier à ses salariés qu'il allait aussi mettre en vente 2 de ses griffes les plus emblématiques, Naf-Naf et André en l'occurrence. Le leader français de l'habillement entend également fermer 142 des 680 magasins, la halle aux chaussures. Les derniers chiffres du chômage du quinquennat. Après 3 mois consécutifs de baisse, le nombre d'inscrits en catégorie A à Pôle emploi est reparti à la hausse au mois de décembre, plus 25 900 chômeurs. Sur l'ensemble de l'année 2016, le nombre d'inscrits en catégorie A a certes diminué, reculé de 111 300, mais depuis l'élection de François Hollande, il y a eu 600 000 chômeurs de plus. Le ton monte sensiblement entre Manuel Valls et Benoît Hamon, alors que les deux candidats à la primaire se retrouvent ce soir pour leur débat de l'entre-deux tours. L'ancien Premier ministre a notamment relancé l'offensive sur la laïcité, reprochant à Benoît Hamon ses ambiguïtés en la matière, notamment face à l'islam radical. Selon le Canard enchaîné, Pénélope Fillon, la femme de François Fillon, aurait perçu quelques 500 000 euros bruts en tant qu'attachée parlementaire. Alors il n'est pas interdit aux parlementaires de faire embaucher des proches comme collaborateurs, à condition bien sûr qu'il ne s'agisse pas d'emplois fictifs. Et là, point d'interrogation.
Ah Donald alors Trump... arrêtez avec cette information.
Ah bah c'en est une.
Mais s'il y a un point d'interrogation, c'est une interrogation, c'est pas une information.
Non, on sait pas si c'est un emploi fictif, mais on sait qu'elle a touché 500 000 euros.
Mais elle a travaillé, madame Fillon.
Justement, on sait pas, c'est ce que dit le Canard enchaîné.
Quand même, on a le droit de faire travailler sa femme, c'est la moitié des
vrai.
Dans le commerce. On fait
c'est
quoi.
Vrai, à condition que ce soit pas un emploi fictif.
Mais c'est pas fictif, attendez de le savoir, quand ça sera fictif, vous l'annoncerez.
Selon
si
Donald Trump relance la guerre des oléoducs, le gouvernement Obama avait bloqué 2 projets dans le Nebraska et le Dakota. Le nouveau président américain lui vient de les autoriser. Le projet le plus emblématique, on le connaît, c'est Keystone XL, activement combattu par les écologistes. Il doit relier les champs de sable bitumineux de la province canadienne de l'Alberta aux raffineries américaines du Golfe du Mexique.
Et ben voilà, c'est très bien, j'ai décidé qu'on fasse les infos de droite, gauche. Eh ben, c'est très bien. Bon, il faut du travail, il faut apporter de l'énergie.
Israël annonce la construction de quelques 2500 nouveaux logements dans des colonies juives en Cisjordanie, décision qualifiée de regrettable par l'État, par l'Union européenne. Sans surprise, le Parti social-démocrate allemand choisit l'ancien président du Parlement européen, Martin Schulz, pour affronter Angela Merkel dans la course à la chancellerie à l'occasion des prochaines élections législatives au mois de septembre.
C'est bien, j'aime bien quand l'Union européenne dit c'est regrettable, j'aime bien la prise de position, c'est pas bien.
Ils ont dit un peu plus, c'est vrai qu'ils ont employé ce terme-là. Deux ans après le violent séisme qui a frappé le Népal, cinq scientifiques vont se rendre sur l'Everest prochainement. Pourquoi ? Pour mesurer si le toit du monde n'aurait pas diminué. Bah oui, des relevés satellites indiquent que le tremblement de terre de 2015 pourrait avoir diminué la hauteur de l'Everest. Alors ces scientifiques, ils attendent la fin de l'hiver, en fait, tout simplement, pour pouvoir mesurer l'Everest. Il pourrait avoir baissé de quelques millimètres, voire centimètres. En nutrition, comme en science, rien n'est jamais figé. En témoigne la publication des nouveaux repères de consommation alimentaire par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'Agence sanitaire recommande notamment de réduire la consommation de charcuterie, bon, rien de nouveau, et de renforcer celle des lentilles, des fèves et des pois chiches. La La Land, sur la route des Oscars, la comédie musicale
On va parler nutrition tout de suite après, vous le saviez ou pas ?
Bah bien sûr.
C'est notre invité suivant, vous savez.
C'est un métier.
Michel Lejoyeux, le professeur qui a écrit Les 4 saisons de la bonne humeur. On en parle après.
Très bien. La La Land, sur la route des Oscars, la comédie musicale de Damien Chazelle, réalisateur de Whiplash, a décroché 14 nominations hier pour la cérémonie du 26 février prochain. Il égale le record du Titanic. On suivra aussi de près Isabelle Huppert, évidemment, nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice pour sa performance dans Elle de Paul Verhoeven.
Vous avez un film français formidable qui est réalisé par un type qui est en studio avec vous. Ce film s'appelle Au vert de la nuit. Vous n'en parlez pas aux infos. Et dès que c'est La La Land, alors là, vous mettez aux infos. Hein.
France, Slovénie et Norvège, Croatie. Ça, c'est le programme des demi-finales du Mondial de handball demain. Hier soir, l'équipe de France s'est imposée 33-30 face à la Suède. En football, Monaco attend Nancy ce soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Le vainqueur de la rencontre aura le privilège d'affronter le PSG en finale. Paris a battu Bordeaux hier soir 4-1. En football, toujours, ça passe pour le Maroc à la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations, les Marocains ont battu les Ivoiriens hier 1-0 et se sont qualifiés pour les quarts de finale. Tenant du titre, la Côte d'Ivoire, elle, est éliminée. Un dernier mot pour vous dire que l'air est toujours pollué, en région parisienne notamment, où la circulation différenciée reste appliquée pour la troisième journée consécutive.
Merci Thierry Paré. Pendant tout le journal, nous avions un témoin dans le studio. Diane Bonneau, vous êtes bien installée ?
Oui, c'est très confortable.
Ça vous a intéressé ?
Oui, j'ai trouvé ça fascinant.
Qu'est-ce qui manquait ?
Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu davantage quant à la météo.
La météo, bien sûr, la météo de Tito. La météo flamenco.
Alors aujourd'hui, sur toute la France, soleil en coin, pluie à Nîmes et neige à Clermont et Dijon. Tant qu'aux températures, attention, entre 0 et 7 à Perpignan, moins 4 et moins 1 à Strasbourg, moins 1 et 2 à Orléans, moins 1 et 2 à Bourges, moins 3 et 1 à Clermont-Ferrand, entre 0 et 5 à Nantes, 3 et 10 à Brest et 7 à 14 en Corse.
Comment vous faites ça, en fait, c'est une guitare ?
Oui, c'est une guitare.
Et en chantant ?
En chantant.
Et avec la météo du Paris.
Avec le papier, tout à fait.
Ça tient à rien, merci. On est à La Rochelle, avec Jacques Souvent.
Jacques, il se fout de ma gueule.
Tito, j'ai mangé chez Rémi hier soir, c'était super bon. Quoi.
C'est vrai, tu t'es poilé, hein?
C'était bon.
Ah, pétard.
Un truc au cochon grillé, je sais plus quoi.
Ah, je savais qu'il s'occupait de toi, il est chouette.
Resto à La Rochelle?
Bah, c'est la Baïtona, on a mangé hier. Tito, il m'a dit, j'ai dit, je vais à La Rochelle, il m'a dit, va chez Rémi. Vous êtes des potes de Gigot, c'est ça ou quoi?
Ouais, il y a un moment, ouais.
Là, moi, je suis 7 hectares à la pointe du Groin. Je suis avec Vivienne, on est sur de l'huître bio.
Exactement, on est sur l'huître bio d'un producteur qui s'appelle Frédéric Voisin, sur l'île de Ré.
D'accord, mais l'huître bio c'est quoi ?
Ah, c'est une bonne question, parce qu'on nous la pose souvent. En fait, l'huître bio, d'abord, c'est une huître qui est diploïde et non pas triploïde. C'est très important, ça veut dire qu'elle n'est pas considérée comme génétiquement modifiée, puisque les huîtres triploïdes sont des huîtres qui sont par croisement stériles. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas avoir de laitance pendant les périodes des laitances, quand on dit « ah oui, elles sont grasses, ah oui, elles sont laiteuses ». Donc, il y a eu des huîtres qui sont considérée comme génétiquement modifiée. Il y a toute une polémique là-dessus. Donc nous, on est sur une huître triploïde. Non, n'importe quoi.
Oula, oui, diploïde.
On est sur une huître. Bah, vous êtes recalés, ça y est, c'est fini. On mangera.
Mais je comprends pas.
On est sur une huître diploïde qui est captée à Sainte-Marie en pleine mer, donc une huître naturelle, et qui ensuite est élevée donc sur le site de production de Monsieur Voisin. Et donc c'est un site qui est agréé biologique, aussi bien à terre que en mer, et qui est certifié. Donc on a une traçabilité quasiment parfaite des valeurs nutritives de l'huître, de la production, de l'élevage. Et donc forcément, on est sur une huître de très grande qualité.
Je vous trouve très en forme, Vivienne. Là, vous êtes, vous...
Ah, merci. Bah oui, je me lève très tôt et je charge des mannes d'huîtres de 15 à 20 kilos le matin. Donc forcément, ça réveille.
Vous êtes en train de bosser, là?
Je suis en train de bosser, exactement.
Il vous a filé rancard ou il est arrivé avec son micro en marchant comme ça entre les...
Ah non, il m'a attrapé avec son micro.
Mais vous êtes... Mais vous êtes, je comprends pas, vous êtes dans la mer, décrivez-nous ce qu'il y a autour de vous.
Alors ce qu'il y a autour de moi, c'est le marché de La Rochelle, le marché couvert de La Rochelle, et donc je suis sur un banc, une étale, l'étale du producteur Frédéric Voisin, et je vends les huîtres bio, ainsi que les moules, les crevettes, les bulots, et tout, plein de coquillages.
Je comprends mieux, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et vos petits tatouages, tatouages marqués Vivienne Queen.
Oh là là.
Non, c'est Vivienne Queer, exactement. Ah. C'est parce que c'est des gens un peu bizarres, les gens un peu queer.
Et les diploïdes et les triploïdes, on y vient tout de suite. Merci Vivienne,
oui,
et Jacques Souvent.
Avec grand plaisir, merci Radio Nova.
Je reçois le professeur Bernard Mamère. Bernard Mamère, bonjour. Diploïdes et triploïdes, beaucoup d'humains se reconnaissent dans ces deux appellations. Est-ce que dans l'avenir, on serait obligé d'appartenir à l'une de ces deux catégories?
Oui, il me semble que c'est fondamental à un moment donné. D'être obligé de choisir son camp, triploïde ou biploïde.
Alors vous-même, vous êtes triploïde, vous apprêtez même à l'avènement du quadriploïde, hein, vous en parlez dans votre livre Toujours Plus, aux éditions à compte d'auteur. Les gens diploïdes sont restés pour vous dans un passéisme?
Je pense qu'ils sont restés dans un passéisme trop binaire. Et aujourd'hui, si on veut survivre à ce que, il va falloir s'adapter, être dans la trisomie. Non. J'allais pas dire la trisomie, non, c'est parce
dans
que
la triploïdie,
c'est-à-dire penser à un troisième sexe, si on veut dire une troisième façon de faire l'amour.
Vous êtes méchant.
J'adore la méchanceté. Oui, torturer les animaux. J'adore. Oui.
Vous pouvez manger un steak de panda ou un bébé dauphin.
Oui. Vivant, j'adore.
Battez-vous avec Tito.
Bonjour.
Battez-vous.
Aïe.
À tout de suite on a mieux après, Armel.
J'ai tué des mouches.
J'espère.
J'aime bien tuer des mouches.
Restez avec nous.
7h-9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Quels sont les vrais, les faux professeurs? Professeur Michel Lejoyeux, bonjour.
Bonjour.
Ah bon, on voit que c'est vrai. Là, tout à coup, je peux pas vous expliquer, c'est très étrange. Vous êtes l'auteur des 4 saisons de la bonne humeur, un programme de santé pour l'âme et le corps, aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous allez nous aider ce matin. On veut de l'utilité, cher Thomas Baumgartner. On veut pouvoir prendre des notes et que tout aille mieux à partir de demain.
J'ai l'impression que c'est fait pour, professeur Lejoyeux, les 4 saisons de la bonne humeur, c'est un programme, c'est presque un manuel en fait à suivre, puisque c'est découpé selon les 4 saisons. Et la première, c'est l'hiver, celle qu'on vit en ce moment. Est-ce que c'est la plus compliquée pour être de bonne humeur? La saison d'hiver.
C'est différent chaque saison. Vous savez, j'ai eu envie de faire ce livre parce qu'il y a énormément d'études récentes qui montrent qu'on peut agir sur la biologie de son cerveau. Mmh. On peut augmenter, par exemple, ce qui nous paraît complètement bloqué, on peut augmenter sa sérotonine avec son mode de vie, avec sa manière de penser, de bouger, de manger. Et on peut diminuer les hormones du stress comme l'adrénaline, là aussi simplement avec le mode de vie. On a quelque chose de magique dans le cerveau, une machine à fabriquer des antidépresseurs. Ça marche un peu quand on vous écoute. Hein. Là, j'ai monté ma sérotonine. Depuis que je suis là, je sens ma sérotonine qui est en train de monter pendant votre émission.
C'est très gentil. Puis aussi, c'est parce que tout le monde a des colons qui fonctionnent extrêmement bien. Ce qui est très important, je crois, dans la vie du cerveau, c'est ça passe par les organes intérieurs,
oui, oui. Non ? Oui, alors, je vois que vous êtes très, très au courant des relations entre le colon et le cerveau. En tout cas, il y a une chose qui est amusante, c'est que la sérotonine dont le cerveau a besoin pour être de bonne humeur, elle est effectivement fabriquée par le tube digestif. Et on s'est aperçu, de manière étonnante, que les gens qui sont de bonne et de mauvaise humeur, c'est des études sur des centaines de milliers de personnes qui viennent des États-Unis, ils ne mangent pas la même chose. Il y a des aliments que mangent plus fréquemment les personnes de bonne humeur. Alors autant les connaître et peut-être essayer de s'en inspirer.
On attaque direct. Il est, je me lève par exemple. Bon, nous, on se lève vers 5h, mais on se lève. Qu'est-ce qu'on prend, professeur Michel Lejoyeux ? Qu'est-ce qu'il faut ? On attaque sur quoi ? On
partirait sur quoi ? Des cornichons.
Alors, on attaque sur... Alors d'abord, vous n'allez pas avoir un effet évidemment immédiat de l'aliment, mais les quelques aliments dont on sait qu'ils sont associés à de la bonne humeur de manière très étonnante, alors effectivement, peut-être pas idéal pour 5 heures du matin, hein, sauf si vous êtes très en forme. Cornichons, choucroute, pickles, vous allez peut-être attendre un petit peu plus tard.
Surtout que ça peut mener au célibat, c'est-à-dire l'usage de cornichons, c'est comme l'aïoli de 6 heures du matin que pratique Tito ou le pain frotté à l'ail dans certaines régions.
Oui, et le célibat ne mène pas à la bonne humeur forcément.
Donc vous voyez, c'est plus compliqué que ça quand même. Hein. C'est plus ça que je dis.
Alors vous parlez d'une boîte de sardines par semaine.
Oui,
pourquoi ?
En tout cas, il y a une chose dont on manque en hiver, c'est de la vitamine D. Vous savez, on connaît le rachitisme des os quand on est en manque de vitamine D. On a aussi le rachitisme des émotions, parce que les petits neurones qu'on a au centre du cerveau et qui produisent justement la bonne humeur, celle que vous produisez aussi le matin, ils ont besoin de vitamine D pour bien fonctionner. Donc quand on a moins de soleil, il faut compenser avec des maquereaux, des sardines, des poissons qui vont nous apporter cette vitamine D.
Alors, vous proposez aussi de s'offrir de temps en temps des plats nouveaux, des nouveautés à manger, professeur Lejoyeux, pour relancer sa libido, c'est-à-dire ?
Oui, ça c'est ce qu'on appelle l'effet Coolidge, qui vient d'un président américain, qui était le président Coolidge, qui visitait une basse-cour et qui a demandé au... Il était avec sa femme et il demande au propriétaire de la basse-cour comment vous faites pour avoir des coques aussi vifs. Et la femme dit, ils sont extraordinaires ces coques. Et le propriétaire de la basse-cour dit, oui, ils sont tous les jours actifs. Et Madame Coolidge dit, bah, expliquez donc ça à Monsieur Coolidge. Et Monsieur Coolidge dit, mais vous avez bien une technique pour que vos coques soient aussi actifs. Et le propriétaire de la basse-cour dit, oui, tous les jours nous leur offrons une poule nouvelle. Et le président Coolidge dit, bah, expliquez donc ça à Madame Coolidge. Donc c'est devenu maintenant très sérieux. En neurobiologie, on définit la néophilie, le plaisir de la nouveauté qui augmente la dopamine. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faille tout changer tous les jours, mais quelque chose d'un peu nouveau stimule le cerveau.
Alors, on parle des aliments qui font du bien, qui mettent de bonne humeur, mais aussi, moi, il y a des choses. Est-ce qu'il y a des aliments qui font rire ? Par exemple, le salsifis me fait rire. On me dit, tiens, il y a des salsifis, ça me fait rire. Est-ce que c'est une maladie personnelle que j'ai ou est-ce qu'il y a des aliments qui font rire ?
D'abord,
l'évocation est drôle.
C'est pas une maladie. Hein. Je viens pas ici chercher des clients, donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas une salsifomanie. Mais par contre, il y a quelque chose qui rend malade. C'est ce qu'on appelle la gélotophobie, puisqu'on en est dans les grands mots.
Ah oui.
La gélotophobie, c'est la peur du rire. Et ceux qui ont peur du rire, ceux qui ne rient pas facilement, ceux qui, comme vous, n'arrivent pas à rire devant un salsifis, qui me paraît un indice de bonne humeur absolue que de rire devant un salsifis. Et ceux qui ont peur du rire sont plus exposés à la déprime. C'est tellement vrai qu'on propose de regarder des personnes en train de rire et d'accepter l'idée que le rire n'est pas une menace, mais au contraire un plaisir.
Alors il y a des plats qui inquiètent, il y a des plats qui attristent, il y a ce qu'on appelle la soupe à la grimace aussi. Est-ce qu'on a le droit devant tout à coup une énième purée de pommes de terre d'avoir un grand moment de découragement ou devant ces pâtes qui se renouvellent jour après jour ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui des pâtes aux pâtes ? Est-ce que c'est normal d'être attristé par certains
aliments ? Oui, on a droit d'abord au grand moment de découragement. La bonne humeur, c'est d'avoir le droit d'avoir de temps en temps des émotions négatives, mais de savoir aussi que vous allez pouvoir entrecouper, si j'ose dire, les moments de pâtes, justement, de plats nouveaux et d'aliments stimulants. Il y en a un qui ressort dans les études, c'est le thé. Deux tasses de thé par jour vous font faire, vous entendez beaucoup parler de méditation, et souvent on ne comprend pas ce que c'est que la méditation. Le thé, vous êtes obligé de le boire doucement, sinon vous allez vous ébouillanter. Vous vous concentrez sur l'instant présent. Vous avez en plus dans le thé, particulièrement dans le thé noir, des antidépresseurs naturels. Et en tenant le thé qui est chaud au bout de vos doigts, vous dilatez les vaisseaux de vos doigts, ce qui envoie un message positif à votre cerveau.
Le cérémonial du thé.
Alors, professeur Lejoyeux, vous êtes professeur de psychiatrie et d'addictologie. Donc, ce qui se passe dans le cerveau, vous l'étudiez, vous le savez. Est-ce que, finalement, une des leçons de ce livre-là, au-delà de ce qu'il y a à manger ou même à écouter, puisque vous parlez même de musique pour être de bonne humeur, c'est pas simplement se considérer soi-même un peu plus, faire attention à ce qu'on mange, c'est aussi faire attention à soi, faire attention à son environnement, y être sensible, c'est faire attention à soi.
Oui, c'est faire attention à soi, et je dirais, c'est accepter l'idée que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Je montre aussi la nécessité absolue du mouvement. Vous voyez, on a besoin de bouger un minimum de 6 minutes de marche par jour pour stimuler son cerveau. Et on est passé d'un paradigme où les psychologues étaient assis dans un fauteuil à réfléchir sur la vie à un nouveau paradigme où on s'aperçoit que le cerveau, les émotions, sont aussi complètement connectées à la santé du corps.
Professeur Lejoyeux, il sort à peu près tous les 3 mois un livre qui nous incite à mieux vivre, à mieux manger, à avoir une meilleure hygiène de vie. Donnez-nous 17 bonnes raisons d'acheter le vôtre, les 4 saisons de la bonne humeur, plutôt que l'un de vos concurrents ou confrères.
Alors, d'abord, y a peut-être d'autres biens. Moi, la raison, enfin, ce que j'ai essayé, pourquoi je l'ai écrit alors que je suis quand même très, très paresseux, je n'ai pas forcément envie de refaire un livre justement sur ce sujet, c'est que j'ai essayé de n'y mettre que des données validées scientifiquement. Je ne vous conseille rien, je ne vous impose rien, mais je suis quand même très étonné que dans notre pays, on continue à considérer la bonne ou la mauvaise humeur comme une question de nature, de fatalité, de recours aux antidépresseurs à la moindre difficulté. Il y a un corpus de données scientifiques très impressionnantes, on les lit, et puis là-dedans, vous allez faire votre choix.
Ça me va. Thomas ?
Il faut remercier la pluie. Ça, c'est une des
philosophe Alain qui disait ça. C'est quand il pleut qu'il faut être de bonne humeur.
Mais Alain, il a dit une belle chose qui est un peu le fil directeur du livre. Le pessimisme est de nature, hein, tout nous rend pessimisme. L'optimisme est de combat. On peut rajouter, la bonne humeur est un peu d'entraînement, vous voyez.
Merci, professeur Michel Lejoyeux.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Misset.
Excusez-moi.
Alors
oui.
Attendez, c'est gentil. On est dans l'expérimental, on est dans l'associatif. Il est 8h23. Professeur Lejoyeux, on va vous amener au stand massage juste à côté. Tito, emmenez le professeur parce que c'est l'heure de la revue de presse maintenant de Marie Misset.
Oui. Voilà. Alors ça va être assez sinistre.
Non, pas du tout, ça va pas être sinistre.
Ah si, un petit peu, ça va être un peu sinistre, mais pour vous mettre de bonne humeur, il y a quand même cet article dans Le Monde qui parle d'un homme qui écoute les poissons sous l'eau, et j'ai appris que les grondins grondaient, et ça m'a beaucoup plu.
On est dans le cadre de la revue de presse.
Non, ça je vous dis hors parce que ça va...
Les grondins grondaient et les perdrix cacabes dans les bruits d'animaux, la perdrix cacabe.
Voilà, alors bonjour, messieurs.
Bonjour. Bonjour, oui, c'est vrai que c'est un... Non, mais dites bonjour Eugénie
bonjour.
Aussi. Messieurs.
Bonjour Eugénie, mais vous allez comprendre pourquoi je dis bonjour messieurs. Vous l'avez sans doute vu passer, cette photo, Donald Trump assis à table, entouré d'hommes, en train de signer un décret anti-avortement. Plus précisément pour les auditeurs pointilleux, un décret qui interdit le financement d'ONG internationales qui soutiennent l'avortement. La photo a fait réagir le monde entier 2 jours après la Women's March sur Washington. Et c'est le courrier international qui recense les réactions ce matin. On y trouve notamment le tweet d'un journaliste du Guardian, c'est Martin Bellam, qui dit « De votre vivant, vous ne verrez jamais une photo de cette femme signant un décret sur ce que les hommes peuvent faire avec leurs organes reproducteurs. » Bon, bah, cette photo m'a fait penser à la longue interview de Françoise Héritier, publiée dans L'Entretien. L'Entretien, c'est une revue qui compile des interviews de Laure Adler. Françoise Héritier, la grande anthropologue, finit justement cet entretien en considérant que cette question du corps de la femme maîtrisée par les hommes, du contrôle de ses organes reproducteurs, eh bien, c'est l'une des grandes questions de société d'aujourd'hui et de demain. Je la laisse un petit peu préciser sa pensée. La femme reproductrice du vivant est le lieu. Oui, la femme est un lieu. Et le lieu est l'enjeu du pouvoir. Son corps est un territoire sous haute surveillance et exposé à une mainmise à partir de laquelle elle perd sa liberté. La servitude des femmes repose sur une entreprise concrète et très très réelle du contrôle des corps vivants, du sien notamment. Cette crispation du pouvoir sur le corps de la femme que l'anthropologue a retrouvée dans toutes les sociétés qu'elle a étudiées trouve un écho dans les pages de Libé ce matin où on nous raconte que la militante féministe et musulmane Aza Soliman est actuellement un peu harcelée par le pouvoir en Égypte. Ses biens ont été gelés. On l'accuse de nuire à l'image de l'Égypte en disant la vérité, c'est-à-dire que les femmes égyptiennes sont exposées au harcèlement sexuel à grande échelle. Pourquoi l'État égyptien craint-elle tant une militante des droits des femmes, se demande une autre féministe égyptienne dans Libé. Parce que l'État considère que l'action féministe est une forme d'opposition aux structures du pouvoir. Le pouvoir et sa structure, donc, c'est bien l'enjeu de la mise en silence d'Aza Soliman. Dans un registre un petit peu plus rigolo, cette obsession du pouvoir pour le corps féminin explique des articles aussi absurdes que celui qu'on trouve dans le dernier schnock sous le label Le jour le plus schnock. Ce jour schnock, ça se passe en 1981, c'est Leni Komernia, ancienne députée, qui raconte « Il y a eu un attroupement, ça a été spectaculaire. Qu'est-ce que Nelly avait fait ?» Bah, on était en 1981 et Nelly avait eu cette audace folle, elle, exploitante agricole et députée, de mettre un pantalon. C'était encore interdit. Il y a eu suspension de séance et puis les députés ont eu enfin le droit de porter des pantalons. Déjà une faux folle en 1976 l'avait tenté, c'était Alice Saunier, c'était, elle était ministre à l'époque, Jacques Chirac lui avait fait comprendre qu'ainsi vêtue, elle dégradait la fonction. Puis il y a des manières à la fois plus vulgaires, plus cracra et beaucoup plus glauques de voir s'articuler les mots pouvoir et corps des femmes. Society signe dans son dernier numéro sur le burn-out un portrait de Carrie Goldberg. Carrie Goldberg, elle est avocate américaine et son combat, c'est contre le revenge porn, la revanche des mecs largués qui, pour se venger, postent sur des sites dédiés des photos, vidéos de leurs ex nus. Et en action aux États-Unis, une personne sur 25 a déjà reçu des menaces concernant des contenus intimes. 6% des Américaines, c'est énorme, 6%, ont déjà vu leur corps exposé sur le web à leur insu. Régulièrement, dit Carrie Goldberg, elle croit avoir affaire au pire cas de sa vie et régulièrement, elle se plante. En France, on attend un petit peu une Carrie Goldberg. C'est comme ça que finit l'article de Society qui sort un chiffre assez effarant. Selon l'IFOP, 13% des hommes interrogés se disent « oui, je pourrais diffuser une photo ou une vidéo d'une ex-partenaire ». Apparemment, la bataille contre le contrôle et la mainmise sur le corps de la femme s'annonce épique à la Maison Blanche comme ailleurs.
Merci Marie. Vous savez, il y a un type qui a posté une photo, il est au milieu de la manifestation de la journée de la femme, il est torse nu et sur son panneau il y a écrit « Je suis torse nu au milieu de femmes, je me sens en sécurité, j'aimerais que le contraire soit vrai ».
Eh bien, moi aussi.
Salut, n'hésitez pas.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Oui. Thierry Paret, vous êtes l'homme de 8h30. Est-ce qu'à 8h31, vous êtes encore l'homme de 8h30?
Ah, on peut. Non, bah non, plus. Bah non, du coup, non.
Prouvez-le.
Radio Nova.
Certains évoquent déjà un Fillon-gate. Selon le Canard enchaîné, Pénélope Fillon, la femme de François Fillon, aurait perçu quelque 500 000 euros bruts en tant qu'attachée parlementaire. Il n'est pas interdit aux parlementaires de faire embaucher des proches comme collaborateurs, à condition qu'il ne s'agisse pas d'emplois fictifs. Or, une ancienne collaboratrice de François Fillon affirme n'avoir jamais travaillé avec elle. Même suspicion pour son travail de conseillère littéraire à la Revue des Deux Mondes, où elle a touché 5000 euros bruts par mois en 2012-2013. « Je ne l'ai jamais vue dans les bureaux de la Revue », a commenté le directeur de l'époque.
Non mais j'en peux plus de cette info. 500 000 euros sur combien d'années? Par exemple, on dit 500 000 euros, on croit que c'est en une année. Non, c'est depuis 15 ans, 20 ans qu'elle travaille avec son mari.
Voilà, en 8 ans. Ça, voilà. C'est pas 20 ans non plus. Hein.
Non, mais soyez...
Les sénateurs ont adopté dans la nuit un texte qui assouplit les règles de légitime défense des policiers. Le texte définit un cadre commun de l'usage des armes à feu par la police et la gendarmerie, alignant la première sur la seconde. Les gendarmes disposent d'une plus grande marge de manœuvre en la matière, en fait. Le ton monte, hein, entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Ils vont se retrouver ce soir donc pour leur débat de l'entre-deux tours. 4 mois après avoir annoncé son projet de céder Patogaz, Chevignon et Koukaï, Vivarte a dévoilé hier à ses salariés qu'il allait aussi mettre en vente deux de ses griffes les plus emblématiques, Naf-Naf et André. Le leader français de l'habillement entend également fermer 142 des 680 magasins La Halle aux chaussures. Après 3 mois consécutifs de baisse, le nombre d'inscrits en catégorie A à Pôle emploi est reparti à la hausse au mois de décembre, plus 25 900 chômeurs. Donald Trump relance la guerre des oléoducs. Le gouvernement Obama avait bloqué 2 projets dans le Nebraska et le Dakota. Le nouveau président américain, lui, vient de les autoriser. Israël annonce la construction de quelque 2500 nouveaux logements dans des colonies juives en Cisjordanie. Décision qualifiée de regrettable par l'Union européenne. Sans surprise, le parti social-démocrate allemand choisit l'ancien président du Parlement européen, Martin Schulz, pour affronter Angela Merkel dans la course à la chancellerie. Ce sera lors des prochaines législatives au mois de septembre. C'était un test important pour les partisans du controversé CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada.
En commission, une majorité d'eurodéputés a approuvé le projet. Les libéraux et conservateurs ont été rejoints par de nombreux sociodémocrates. La La Land sur la route des Oscars, la comédie musicale de Damien Chazelle, réalisateur de Whiplash, a décroché 14 nominations pour la cérémonie du 26 février prochain, égalant notamment le record de Titanic. France-Slovénie et Norvège-Croatie, voilà, c'est le programme des demi-finales du mondial de handball. En football, Monaco attend Nancy ce soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Le vainqueur rencontrera le Paris Saint-Germain en finale, le PSG qui a battu Bordeaux hier soir 4-1. Et puis, un dernier mot pour vous dire que l'air est toujours pollué, en région parisienne notamment, et du coup la circulation différenciée reste appliquée pour la troisième journée consécutive.
Merci. Claude Glu, bonjour.
Bonjour.
Claude Glu, vous êtes président de l'association qui caresse des petits bébés pandas mignons et qui s'en occupe. Vous vous occupez aussi d'enfants tristes et vous les consolez. Vous êtes aussi un ami de la nature.
Vous avez aussi l'association des gens qui aimeraient bagayer.
Mais vous êtes surtout très très gentil. Or, vous n'avez jamais vu Pénélope Fillon dans vos associations.
Jamais. Depuis ce matin, on s'interroge avec nos collaborateurs.
Alors, c'est que des actes gentils, de mignons, gnougnous.
Il y a une dame qui est passée à un moment.
C'était pas elle.
C'était pas elle. On a revisionné les caméras de surveillance.
Elle n'était pas là. Rien. Alors que c'est très mignon. Vous donnez à manger aux gens, vous faites des petites caresses aux bébés.
On donne à manger aux pandas, des enfants aux pandas.
C'est accablant. Merci beaucoup.
Accablant, complètement.
La météo de Boudère. Boudère?
Oui, Edouard.
Boudère, pardon de t'appeler parce que je n'ai plus de météo professionnelle et je sais que tu as une fenêtre chez toi.
Ben, j'ai mon lit qui est collé à ma fenêtre.
Tu peux ouvrir la fenêtre?
L'ouvrir, il fait froid, Edouard.
Alors,
ma fenêtre.
La météo de la fenêtre de Boudère fermée, c'est déjà moins bien. Alors, à ton avis, il fait combien?
Il fait très froid, je vois des enfants qui vont à l'école, je vois des nez qui coulent.
Oui, tu vois de chez toi des nez qui coulent? Tu as une fenêtre au rez-de-chaussée?
Je suis au rez-de-chaussée, il y a un monsieur qui est assis à ma fenêtre. Monsieur, vous pouvez partir s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que je vois? Je vois un garçon qui n'est pas très content d'aller à l'école, il part en marche arrière.
Oui.
Qu'est-ce que je vois? Je vois des petites disputes, un couple qui se dispute. Là. Je crois qu'ils ont dû oublier des gants. Il fait très froid, mais les gens sont assez souriants. Je suis dans ma cité, dans des plaises à certains, les gens se lèvent tôt, et tout se passe bien. Non, il fait froid, mais tout le monde... Enfin, je vois des gens qui se réchauffent en frottant leurs mains. Qu'est-ce que je vois encore? Ah, madame n'a pas fait son brushing. C'est bizarre. Qu'est-ce que je vois encore? Mais ça a l'air sympa, c'est très mouvementé. Il y a de la pollution, parce que je viens de voir une personne qui a éternué.
Merci Boudère, c'était la météo vue de ma fenêtre fermée dans ma cité par Boudère.
Merci beaucoup à vous. Bonne continuation, je vous embrasse très fort, monsieur Edouard.
Salut mon pote.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Alors même qu'Agathe Cagé du think tank Carte sur table s'installe à cette très belle table, on nous signale que Jack Souvent à La Rochelle est dans une information chaude.
J'ai la sérotonine à 200%.
Oui.
Et là, on était en train de tâter du potimarron.
Du potimarron, tout à fait. Donc il y a vraiment de toutes les tailles.
Qu'est-ce que c'est que cette expression « tâter du potimarron » en langage de La Rochelle? C'est la métaphore de quoi?
Alors, c'est pas une très grande métaphore, c'est juste que... Il me demandait quel légume pouvait être assez rigolo. Et on a commencé à tâter du potimarron.
Ça vous fait rire le potimarron, vous, ou pas?
Eh bien, je trouve que la forme est assez rigolote, parce qu'on peut en trouver des tout petits, des énormes, des oranges, des violets, des verts. C'est plein de vie, plein de couleurs. Et ça me fait énormément sourire.
Ah oui, oui, j'entends ça, oui. Quel est votre prénom?
Charlotte, et vous?
Édouard.
Enchantée.
Charlotte, à part rire en se moquant des fruits et légumes, ce qui n'est pas très charitable, quelle est votre activité ce matin?
Je vais cuisiner.
Vous allez cuisiner pour vous, pour d'autres gens?
Pour d'autres gens.
Qui? Donnez-moi des prénoms.
Alors il y aurait Eric.
Pour Eric, oui.
Alex. Aussi Isabelle.
Isabelle.
Je passe aussi la petite dédicace à... Vous voulez venir manger d'ailleurs?
Non, je peux pas. Le Paris-La Rochelle de 8h42, je vais le louper. Alex, Eric et Isabelle vont venir déjeuner chez vous ou pas?
Ils viennent souvent déjeuner. Oui, il y a même Sébastien, Bruno.
Oula, non, alors là, ça commence à déraper.
Mais après, on va.
Est-ce qu'ils escaladent? Ils escaladent aussi?
Ah non, ils viennent seulement pour manger. C'est vrai qu'il y a deux clientèles différentes.
C'est quoi cette histoire d'escalade?
Alors, c'est dans une salle d'escalade, en fait, la partie restauration.
Ah, il y a beaucoup, beaucoup maintenant de parties restauration dans la salle d'escalade.
Exactement.
Donc vous avez signalé ça.
Exactement.
D'ailleurs, là, sur la place du marché, il y a quelques... Comment ça s'appelle, les plots pour s'accrocher à la façade, là ?
Des grosses prises. Des blocs. On pourrait dire ça, des blocs, des volumes.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Qui est à vendre, là, par exemple.
Qu'est-ce qu'il y a comme...
Ah non, ça, c'est un panneau.
Il y a des bons spots d'escalade en ce moment sur La Rochelle. Il y a quoi ? Le Mont Rochelle ?
Sur La Rochelle, bien sûr. À The Roof, la salle d'escalade elle-même.
Donc, indoor. Hein, on est sur l'escalade indoor et non pas l'escalade outdoor. Vous allez vous lancer dans les vraies cimes bientôt, Charlotte ?
Dans ?
Sur les vraies montagnes extérieures, ça vous rassure de grimper dedans ?
Alors, je vous avoue que ça pourrait être intéressant, mentalement. Mais pour l'instant, j'escalade dans la cuisine.
Merci beaucoup, chère Charlotte. Grimper dehors, grimper dedans, deux facettes de la vie. Nous allons les aborder maintenant avec Thomas Baumgartner et Agathe Cagé. Agathe Cagé, qu'est-ce que ce think tank carte sur table ? Comment l'expliquer clairement à nos auditeurs ? Et simplement.
Bonjour, le think tank Carte sur Table est un think tank qui réunit des contributeurs qui ont tous moins de 35 ans, 150 personnes, qui réfléchissent aujourd'hui ensemble et essaient d'avoir des propositions un peu innovantes sur les sujets emploi, sur les sujets culture, sur les sujets transition énergétique, sur les sujets également société, comment on peut refaire du lien social.
Parce que la société va plus vite que la politique, vous avez l'impression aujourd'hui que le langage politique, que les hommes politiques tels qu'ils s'expriment dans les médias ou tels que dans les propositions de programme ?
Il y a plus d'idées dans la société et les hommes politiques ont à gagner à aller puiser ces idées dans la société. Et c'est pour ça qu'on a écrit Génération 2040, pour proposer un certain nombre d'idées aux responsables politiques.
Et parce que Génération 2040, c'est un manifeste qui est paru en octobre, ou en tout cas au début de l'année scolaire, pour le dire comme ça. C'est un manifeste donc à l'attention des candidats à la présidence de la République. Donc non seulement c'était valable en octobre, mais ça allait de plus en plus, peut-être Agathe Cagé, à l'heure où on parle. L'idée de mettre aussi, si j'ai bien compris, carte sur table, ce think tank, groupe de réflexion, c'est l'idée de donner la main aussi aux jeunes, qu'ils aient la main en politique et dans le débat public. Dans ce manifeste, on va voir quelques-uns des éléments de ce manifeste. Est-ce que ce sont des éléments qui émanent d'une nouvelle génération ?
Oui, l'idée c'est vraiment de donner à une nouvelle génération la parole et essayer de lui donner la parole autrement, c'est-à-dire qu'on peut penser des formes d'engagement politique qui soient des formes d'engagement politique collective, qui ne visent pas seulement à être élu, mais qui soient des formes d'engagement pour penser ensemble une société différente, pour penser ensemble de nouvelles formes d'emploi, pour penser ensemble le chemin vers la transition écologique. Bien sûr que l'engagement politique individuel, bien sûr que s'inscrire dans un parti, militer, ce sont des démarches intéressantes. Mais si on veut avoir des idées un peu innovantes, je pense qu'il faut qu'on casse les cadres habituels de réflexion et c'est ce qu'on a tenté de faire ici.
Ce que vous tentez de faire, est-ce que vous savez si c'est déjà repris par certains candidats, certains des éléments qui sont dans ce manifeste, une des idées transversales d'ailleurs des différentes propositions, c'est de recréer, de changer le lien. Vous ne dites pas lien social, vous dites créer du lien dans la société.
C'est vraiment essentiel d'essayer de recréer du lien en France, parce qu'on voit bien que c'est peut-être le problème fondamental qui se pose aujourd'hui, c'est le délitement de ce lien entre les individus, entre les citoyens. Et si on fait confiance aux forces qui existent partout sur le territoire, si on fait confiance à la capacité de chacun des citoyens à avoir des idées, à penser ensemble, à avoir des solidarités au niveau local, on pourra créer autre chose. Est-ce qu'on voit aujourd'hui apparaître dans les programmes des candidats des idées qui sont dans Génération 2040 ? Oui, on voit un certain nombre de choses qu'on a voulu porter, diffuser dans les programmes. Le fait qu'il faut conduire une transition écologique et qu'on peut se servir de l'Europe pour conduire cette transition écologique, c'est quelque chose qu'on voit notamment aujourd'hui dans le programme du candidat Benoît Hamon. Mmh. Le fait qu'il faille essayer de plus seulement penser... En termes de taux de chômage, qu'on parle d'emploi, mais qu'il faut aussi penser en termes de qualité d'emploi, de qualité de vie, c'est aussi des idées qu'on voit diffuser. Parce que finalement, ce sont des idées qui sont des idées d'un peu long terme, et c'est ce qu'on attend, je pense, de candidats à la présidence de la République. Pas seulement de parler de mesures technocratiques, pas seulement de parler du court terme, mais essayer d'avoir un horizon de long terme et de penser ensuite un certain nombre de propositions pour conduire la société vers cet horizon.
Voir à 30 ans, puisque c'est ça, Génération 2040, c'est une définition de l'homme d'État plus que l'homme politique. Vous appelez à des hommes ou des femmes d'État ?
On appelle à des hommes d'État, exactement, c'est-à-dire des hommes qui ont des visions et qui ont aussi un courage politique. Aujourd'hui, il faut arrêter de craindre finalement l'effet dans les sondages d'une décision, d'une proposition, d'une prise de parole. Il faut avoir le courage d'affronter des sondages négatifs, d'affronter des opinions négatives, mais de proposer un chemin et ensuite d'entraîner une société vers ce chemin. Je pense que les citoyens sont prêts à faire ça. C'est aux hommes politiques d'avoir le courage de s'engager dans ce type de démarche.
Alors, Agathe Cagé,
pardon, parce que vous parliez du lien là, parce que c'est une phrase qui revient souvent, il n'y a plus de lien. Ça veut dire quoi concrètement? Les gens ne se croisent plus physiquement? Vous avez l'impression que ça vient d'où cette histoire du lien? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y avait plus de liens avant? Pourquoi est-ce qu'il y en a moins? C'est quoi? C'est l'avènement du virtuel qui fait ça? Les gens se renferment dans des petits groupes?
Je ne pense pas que ce soit l'avènement du virtuel. On peut faire énormément de choses avec le virtuel. Par exemple, le crowdfunding, ça peut être une manière de recréer du lien en se servant du virtuel, avec du financement participatif, avec des plateformes. Finalement, vous avez un projet dans le nord de la France et vous pouvez avoir une dizaine de personnes dans le sud de la France qui trouvent ce projet intéressant, qui décident de le soutenir.
Bah alors pourquoi il n'y a pas de lien?
Parce qu'il y a trop de méfiance, il y a trop de défiance, il y a trop de peur de l'autre. On est en train, finalement, de se renfermer par la peur de l'autre, par la peur de la différence. Et l'engagement politique, finalement, l'engagement politique par les idées, par l'échange, ça permet de recréer de la confiance.
Mais pourquoi plus maintenant qu'avant?
Pourquoi
vous sentez qu'il y a plus de méfiance qu'avant? Ou alors, avant, on se méfiait du type du village d'à côté, que tout allait bien si vous étiez du bon village, pas divorcé, hétéro, du même milieu social, où j'ai l'impression que les gens se méfiaient beaucoup plus avant, non? Les uns des autres.
Bah, je pense qu'en tout cas, la parole de méfiance, c'est vraiment libéré. La parole de peur, c'est vraiment libéré. Et que je pense qu'il faut avoir du courage aujourd'hui pour aller vers l'autre, quand l'autre est décrit comme celui qui peut prendre l'emploi alors qu'on a peur de le perdre, comme l'autre est décrit comme celui qui peut se radicaliser alors qu'on a peur du terrorisme, quand l'autre est décrit comme celui qui voudrait profiter de la société alors qu'on a peur de perdre ses avantages sociaux.
Dans les propositions de réforme que vous écrivez dans Génération 2040, quand je dis vous, c'est carte sur table, hein, c'est ce think tank dont on parle, il y a une réforme des institutions assez importante, c'est-à-dire aller contre la professionnalisation des politiques, d'une part, donc un renouveau régulier de la classe politique, développer l'initiative citoyenne en politique, et puis deux députés par circonscription, un homme et une femme.
Et surtout deux députés par circonscription pour qu'on ait un député qui siège en permanence à l'Assemblée nationale et un député qui soit en permanence en train de sillonner le territoire. Mmh. Aujourd'hui, on a un grand problème. On a des représentants. C'est quand même un métier magnifique de pouvoir représenter les citoyens, de pouvoir faire et voter les lois. On a des représentants qui ne siègent que rarement sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est dramatique. On le voit, hein. Si on allume la télévision, on a des bancs de l'Assemblée nationale qui sont trop souvent vides. Or, il faut quand même qu'on ait des représentants qui assument cette mission à plein temps. Et en même temps, on a besoin sur le territoire de pouvoir rencontrer son député, parce que c'est en rencontrant son député, c'est ces échanges qui sont le thermomètre de ce que pense la société, de ce dont elle a besoin. Donc finalement, vous réduisez par deux le nombre de circonscriptions, vous mettez deux députés, vous les élisez ensemble, et puis vous en avez un qui fait le boulot d'être sur le territoire à 100%, et l'autre qui fait le boulot d'être sur le banc de l'Assemblée nationale à 100%.
Ils peuvent même se marier, parce que comme ça, c'est plus simple, ils habiteraient ensemble.
Le problème, c'est s'ils se marient, il y a des risques de divorce, et après, en cours de mandat, ça peut rendre le travail plus difficile.
Je vois que vous avez étudié le problème jusqu'au fond. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir qu'il faille un tout petit peu d'éducation civique pour avoir le droit de voter?
Je pense qu'il faut qu'on continue à développer l'éducation civique, c'est quelque chose qui existe. C'est intéressant, on a vu qu'une majorité de lycéens s'était prononcée pour avoir le droit de vote à 16 ans. Donc il y a une véritable envie de pouvoir se prononcer assez tôt pour pouvoir élire ses représentants. Mais bien sûr qu'il faut une éducation civique pour comprendre pourquoi on élit des représentants, quelles sont leurs missions et quelles sont aussi les missions des citoyens.
Mais même par exemple, il y a un questionnaire de 10 questions, si vous n'y répondez pas bien, vous n'avez pas le droit de voter. Toute simple.
Oh, ça serait très excluant parce que vous allez vite arriver à des schémas où finalement vous allez avoir un nombre réduit de personnes qui vont se déclarer compétentes pour avoir le droit de vote.
Non, mais des toutes simples. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? À quoi ça sert? Ou est-ce qu'on vit sous un royaume ou sinon?
Ou écoutez-vous Nouvelle Matin, par exemple?
Non, mais moi je trouve. Ouais. Qu'est-ce qu'une
loi, Edouard?
Non, mais je dis cette question-là, celle-là, elle est très compliquée, mais moi je ne demande pas le droit de vote. Mais sur des questions toutes simples, à quoi servent les choses et les salaires et tout ça. Non, je me disais qu'on pourrait poser 10 questions et que ça nous donnerait le droit de voter ou pas.
Ouais, je pense qu'il faut développer l'éducation civique, mais il ne faut surtout pas mettre de barrières au droit de vote. C'est déjà compliqué pour un certain nombre de citoyens de faire la démarche. Il faut les encourager dans cette démarche civique et pas leur dire « Attention, il faut vous tester une nouvelle fois pour savoir si vous avez le droit d'aller voter. »
Non, mais nous donner des cours après, qu'on ait accès tous à des cours d'éducation civique. Moi, je suis ravi d'en prendre.
Pourquoi pas faire des MOOC d'éducation civique?
Des
cours en ligne ouverts à tout le monde.
Oui, très bien. Mais bien sûr, Agathe Cagé, on est d'accord, moi je suis là pour apprendre.
Est-ce que l'idée, Agathe Cagé, c'est pas aussi de reprendre la main du projet? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qui a le vent en poupe, ce qui propose un projet politique qui est plutôt du côté, on va dire, pour être très clair, de la réaction. C'est Donald Trump, entre autres, une PAC, aujourd'hui, ce qu'il peut proposer. Est-ce que l'idée n'est pas justement que cette génération, la génération 2040 qui donne le titre à votre manifeste, n'a pas comme objectif, comme rôle ou comme peut-être comme devoir de réussir à reprendre la main du projet, de la proposition ?
Si, la génération des moins de 30 ans a vraiment, oui, comme rôle et comme devoir le fait de proposer des choses positives. Il faut arrêter finalement de se contenter de ce que peuvent proposer un certain nombre de responsables politiques. Vous citiez Donald Trump, qui sont des choses de retour en arrière et de repli sur soi. Et il faut arrêter de se contenter de déplorer une situation qu'on la trouve négative. Si on trouve une situation négative, si on trouve qu'il n'y a pas un projet qui porte assez vers l'avenir, si on trouve qu'il n'y a pas assez d'idées nouvelles, on n'a qu'à se retrousser les manches, discuter ensemble et proposer des idées nouvelles. Après ces idées, on verra. Si elles diffusent, on verra. Si elles conviennent, on verra si on peut en faire quelque chose. Mais en tout cas, se retrousser les manches pour proposer quelque chose. Je pense que c'est la responsabilité des jeunes qui ont aujourd'hui 15, 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans, de proposer des choses, d'essayer de faire avancer politiquement les choses au lieu de déplorer que la situation est dégradée ou que rien ne leur est proposé.
Ah, c'est pour ça que vous avez renvoyé déjà la mienne dans les filets avant d'en discuter. C'est parce que j'ai plus 35 ans que je n'ai pas le droit de lancer des idées un peu peut-être absurdes. On n'a plus le droit.
Alors pour
plus
vous, on peut faire parole. Un effort.
Merci beaucoup, chère Agathe Cagé.
Agathe Cagé, carte sur table, c'est le think tank, le groupe de réflexion Génération 2040, manifeste à l'attention des candidats à la présidence de la République. Donc on peut imaginer que c'est entre les mains de certains d'entre eux. C'est paru chez Temporis Éditions.
Voilà, vous allez faire quoi aujourd'hui après?
Ah, je pense que je vais relire les mains sales de Sartre pour me préparer au débat des primaires de ce soir.
Salut, bonne journée. Merci.
Bonne journée.
Plus près de toi.
7h, 9h. Édouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Il est là depuis ce matin, depuis le début. Il a écouté toute l'émission avec son tout petit carnet de notes. C'est en papier ou en peau de phoque en...
C'est du teck.
Un petit carnet en teck, en bois de teck.
Oui, c'est des pages en bois.
C'est ammoniacal.
Bonjour.
Bonjour ammoniacal.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu es gentil. Oh là.
Tiens.
Oh, des fleurs.
Tiens, un magnétoscope.
Un magnétoscope. Ah, c'est très joli, un magnétoscope. En...
Tiens, encore.
Oh, une petite crotte de girafe. C'est gentil.
C'est bon pour la laine.
D'accord. Alors, ammoniacal, tu es mon invité témoin de la fin de l'émission.
Oui.
Essaye de bien te tenir, d'être à la hauteur. Tu rappelles un petit peu ton apparence physique, même si on ne s'arrête pas au physique ici.
Ben, je suis moitié pingouin. Moitié homme et moitié chiffon.
Voilà, cette petite particularité fait de toi quelqu'un qui n'est pas accepté dans tous les cercles. Qui est un petit peu ostracisé parfois.
Je suis ostracisé parfois et des fois... Mais là, j'ai été voir un hypnotiseur pour qu'il me fasse aimer ce que je suis. Et depuis, j'accepte d'être un chiffon entier. Un tiers de chiffon.
Ouais.
Et depuis, j'essuie tout ce que j'ai envie d'essuyer. Dans la forêt, des verres, des bouteilles de coca.
Ouais. Tu trouves que le monde est devenu fou de...
Oui, dans un sens. Parce que hier, je sortais de chez moi et l'arbre, il n'avait plus de feuilles.
Mais c'est l'hiver, ça.
Mais oui, mais c'était mon copain. Et...
Mais ça va revenir.
Mais pourquoi ?
Mais ça, c'est la nature.
Oui, mais c'est pas quand même gentil.
Ça va repousser.
Oui, bon.
Tu veux nous faire ton petit jingle, là, avant de reparler ?
Mignon, ammoniacal.
Est-ce que tu trouves que l'émission est assez dynamique pour une émission du matin ou pas ?
J'ai vraiment bien apprécié tout ce que j'ai entendu, même si je ne comprenais pas tout ce qui était dit. Et j'essaye de faire que cette phrase ne finissera jamais pour que les gens, une fois qu'ils auront... Fini d'écouter l'émission.
Tu sais que sur les autres radios, il y a des gens qui crient, ça gueule, il y a des gens qui ont l'appel. Alors ça va, il est 8h59, c'est parti, on s'en fout de l'hiver, on a la banane. Tu es conscient de ça. Tu es conscient que tu es une contre-programmation.
Je, je suis envoyé par les communistes pour déstabiliser le capitalisme néo-impérialiste.
Merci d'avoir été mon invité, on écoute ton petit jingle.
Mignon, mignon, mignon. Mignon, mignon, mignon.
Merci, l'émission touche à sa fin. Merci Thomas, merci Eugénie, Armel, Tito, merci Marie, merci à tous. C'est toujours bien de rajouter un Z, ça fait toujours plaisir. Très bonne journée à tous, à demain. Nous, on va voir les flics parce qu'on a hacké France Inter comme tout à l'heure. Je suis extrêmement fier de ce gag. Cher Thierry Paret, je te laisse le journal et ensuite nos amis des 30 Glorieuses qui sont très... Je les vois passer dans le couloir, ils sont très inspirés. Ils sont habillés de grandes robes avec des perruques et des maquillages et c'est de toute beauté. Ils doivent avoir un autre métier la nuit, on en parlera ou on n'en parlera pas. Merci.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.